à la seule question. Pas difficile, mais on va t'en prêter là, bien prendre l'an de là. Une autre fois. Et alors, pas de questions sur Spinoza.
Non.
Je voudrais beaucoup que vous n'abandonniez pas votre lecture. Hein. Ouais. Bon.
Très bête, évidemment, j'ai étudié le livre de Dorline, et là, c'est un livre de Dorline, et une phrase sur Spinoza, je ne sais pas si c'est une phrase de mais il y a un texte en dessous du monde, en rapprochant, je ne sais pas le nom plus, entre Leibniz et Spinoza. On a fait Spinoza et Descartes, Spinoza et Freud, Spinoza et Dieu. Est-ce qu'on a fait Spinoza de l'été à Leibniz l'année dernière? Est-ce que c'est un peu contemporain, non?
Il y a un livre qui s'appelle Leibniz et Spinoza. Ils sont contemporains, ils se connaissent.
Ils se connaissent, sans doute, ils devraient avoir des rapports. Surtout des rapports entre tous.
Leibniz a fait une visite à Spinoza, oui. Ils se sont rencontrés. On ne sait pas bien ce qu'ils se sont dit. Ouais. Oh oui, il y a des ressemblances d'ailleurs.
Ah oui, bah, oui.
Eh bien, après cette question. Oui, il y a encore une question.
Je trouve très démocratique parce qu'on était une trentaine à se la poser. Je pense que c'est une parole là.
Vous étiez 30 à vous la poser. Toi et toi.
Et si ça ne te dérange pas, développer une question qui est un peu pour terminer la semaine dernière. C'est vrai ?
Non, oui.
Ça concerne les autres questions, évidemment. Donc, développer un petit peu ce point. Et dans mon cas personnel, j'aimerais savoir si, quand un compositeur, ou quand un. Enfin, la question est la même, hein, ou un philosophe, c'est bien pour ça que je la pose, ou un écrivain, évidemment, crée quelque chose, alors faisons des guillemets, perçoit quelque chose qui n'appartient pas, a priori, comme ça, au monde extérieur, bien qu'il ne soit en relation immédiate avec le monde extérieur, donc avec le monde des rapports. Et à partir du moment où Mozart a la perception d'un instant que ça a développé toute une musique, ou qu'un écrivain a la perception de toute chose qui se passe dans son corps ou dans son âme, et qui va développer un texte à partir de ça, et qu'un philosophe comme Bergson va trouver ce qu'il appelle un philosophe. Quand un musicien dit « voilà moi ce que je fais », il ne dit pas que ça, je dis « cosmos », mais « je sors moi » et donc « tu ressors », c'est en moi un point. Est-ce que ça pourrait, dans l'analyse que tu as fait des auto-affections chez Spinoza, appartenir au troisième genre de connaissance ou être un pas vers le troisième genre de connaissance? Dans ce cas-là, quelle serait la relation directe entre cette perception? Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et qui est d'un ordre assez élevé au niveau créatif, aussi bien chez le peintre, chez le musicien, chez le philosophe que chez l'écrivain, voire chez d'autres personnes. Et le rapport entre cette perception-là, cette perception interne, et le perspective. Même si le terme de perception n'est pas bon, je ne suis pas forcément perception. Voilà.
Ouais, ça fait deux questions. Hein.
Et la même, mais en même temps, ça permet d'arriver à la conclusion.
Je commence rapidement par la seconde, parce que c'est évidemment la plus intéressante et la plus, enfin la plus difficile, mais à laquelle on ne peut répondre que vaguement. Donc, il demande à la fois en quoi consistent certains états, dont les exemples les plus frappants appartiennent sans doute en effet à l'art. Qu'est-ce que ça veut dire quand un artiste, mais ça doit valoir aussi pour bien autre chose que la... Quand un artiste commence à posséder une espèce de certitude, hein, une espèce de certitude de quoi? Alors déjà définir cette espèce de certitude, hein. À un moment assez datable, c'est peut-être le moment aussi qu'il est le plus, ça devient difficile, il est le plus fragile avec cette certitude et il est le plus invulnérable. Hein. Il arrive à une espèce de certitude concernant quoi? Concernant ce qu'il veut faire, concernant ce qu'il peut faire, tout ça. Alors, la question de Richard, c'est, vous voyez ces états, en effet, que certains, qui ne sont pas du tout donnés, même chez des artistes, c'est pas donné, ces choses-là. On peut presque assigner une date, hein, où quelqu'un commence à avoir une... Ouais, j'arrive pas à trouver d'autres termes que cette espèce de certitude. Ah oui, pourtant, il pourrait pas dire... Il ne pourrait pas dire encore, il n'a pas lieu de dire ce qu'il veut faire, même si c'est un écrivain, même si c'est un philosophe. Mais il y a cette certitude. Et cette certitude, ce n'est pas du tout une vanité, parce que c'est au contraire une espèce de modestie immense. Alors, si vous voyez un petit peu ces états, justement, on va en parler à propos de la peinture, parce que ça me paraît frappant que dans le cas de ce grand peintre, on peut presque assigner des dates où ils entrent dans cet élément de la certitude. La question de Richard, c'est, est-ce que l'on pourrait dire, bien entendu, il est le premier à savoir que sa question est un peu forcée, Spinoza n'en parle pas en toutes lettres. Mais est-ce qu'on peut assimiler cela à quelque chose comme le troisième genre de connaissance? Ces états de certitude. À première vue, je dirais oui. Parce que si j'essaie de définir les états du troisième genre, hein, c'est quoi? Il y a une certitude. C'est un mode de certitude très particulier que Spinoza exprime d'ailleurs sous le terme un peu insolite de conscius. Conscience, c'est une conscience. C'est une espèce de conscience, mais qui s'est élevée à une puissance, je dirais presque, c'est la dernière puissance de la conscience. Et qu'est-ce que c'est? Comment définir cette conscience? C'est la conscience interne d'autre chose. À savoir, c'est une conscience de soi, mais cette conscience de soi en tant que telle appréhende une puissance. Alors cette conscience de soi qui s'est élevée et qui est devenue consciente de puissance, cela fait que ce que cette conscience saisit, elle le saisit à l'intérieur de soi. Et pourtant ce qu'elle saisit ainsi à l'intérieur de soi, c'est une puissance extérieure. C'est bien comme ça que Spinoza essaie de définir le troisième genre. Finalement, vous atteignez au troisième genre, ce genre presque mystique, quoi, cette intuition du troisième genre. Pratiquement, on pourrait dire à quoi la reconnaître. C'est vraiment lorsque vous affrontez une puissance extérieure, il faut maintenir les deux. Et cette puissance extérieure, c'est en vous que vous l'affrontez. Vous la saisissez en vous. C'est pour ça que Spinoza dit finalement le troisième genre, c'est lorsque être conscient de soi-même, être conscient de Dieu et être conscient du monde ne font plus qu'un. Je crois que c'est important, là il faut le prendre à la lettre les formules de Spinoza. Dans le troisième genre de connaissance, je suis indissolublement conscient de moi-même, des autres ou du monde et de Dieu. Alors, ça veut bien dire, si vous voulez, c'est cette espèce de de conscience de soi qui est en même temps conscience de la puissance. Conscience de la puissance qui est en même temps conscience de soi. Alors ensemble, je dirais oui, bon, pourquoi est-ce qu'on y est à la fois sûr et pourtant très vulnérable ? Et qu'on y est très vulnérable parce qu'il s'en faut toujours d'un point minuscule que cette puissance ne nous emporte. Elle nous déborde tellement que, à ce moment-là, tout se passe comme si on était abattu par l'énormité de cette puissance. Et en même temps, on est sûr. On est sûr que c'est précisément l'objet de cette conscience qui est extérieure qu'il soit en tant que puissance. C'est en moi que je le saisis. Si bien que, Spinoza insiste énormément sur le point suivant, le bonheur du troisième genre, auquel il réserve le nom de béatitude, cette béatitude, c'est finalement un étrange bonheur. C'est-à-dire que c'est un bonheur qui ne dépend que de moi. Est-ce qu'il y a des bonheurs qui ne dépendent que de moi ? Spinoza dirait, c'est une fausse question, se demander est-ce qu'il y en a. Puisque c'est vraiment le produit d'une conquête. La conquête du troisième genre, c'est très précisément arriver à des états de bonheur ou en même temps des certitudes que, à quoi qu'il arrive, personne d'une certaine manière ne peut me sauver. Tout peut arriver. L'idée, vous savez, on passe parfois par des états comme ça, hélas non durables. Quoi qu'il arrive, peut-être que je pourrais mourir, oui, d'accord. Mais ça, il y a quelque chose qu'on ne peut pas me retirer, c'est à la lettre cet étrange bonheur. Alors ça, Spinoza, dans le livre 5, je crois, le décrit très admirablement. D'où je reviens plus à la première question qui elle est plus... Oui, je ne sais pas si j'ai répondu, mais donc je dirais, oui, c'est ce qu'on appelait la dernière fois, ce que j'appelais l'auto-affection, c'est précisément cette conscience de la puissance qui est devenue conscience de soi. Alors peut-être que l'art présente ces formes de conscience particulièrement, sous une forme particulièrement aiguë. L'impression de devenir invulnérable, ça. J'arrive pas à dire l'extraordinaire modestie qui accompagne cette certitude. C'est une espèce de certitude de soi qui baigne dans une modestie. C'est comme le rapport avec une puissance. Ouais. Bon. Mais alors pour en revenir à la question plus simple, Richard. Donc ces auto-affections qui vont définir le troisième genre et qui définissent déjà le second genre. Je tiens juste à faire la récapitulation, parce que je crois que c'est très important pour le cheminement de l'éthique. Voyez, mais je crois vraiment qu'il part d'un plan d'existence où il nous a montré pour toutes les raisons du monde comment et pourquoi nous étions condamnés aux idées inadéquates et aux passions. Et encore une fois, le problème de l'éthique, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on pourrait sortir des idées inadéquates et des passions ? Or, il a accumulé tous les arguments pour nous montrer que, à la limite, à première vue, on ne peut pas en sortir. C'est-à-dire, il a accumulé tous les arguments, suivant, pour nous montrer que, en apparence, nous étions condamnés au premier genre de connaissance. Je prends un seul exemple, nous ne sommes pas libres. Bon, nous ne sommes pas libres. La haine que Spinoza a contre ce concept qui nous paraît un très mauvais concept de liberté, nous ne sommes pas libres parce que nous subissons toujours des actions venant, c'est très simple, son idée, on subit toujours les effets des corps extérieurs, la liberté que ça veut. Même une idée vraie, on ne voit même pas, si on prend au sérieux la description du premier genre de connaissance chez Spinoza, on ne voit même pas comment il peut être question dans ce sens. On subit les effets des autres corps, il n'y a pas d'idée claire et distincte, il n'y a pas d'idée vraie, on est condamné aux idées inadéquates, on est condamné aux passions. Et pourtant, toute l'éthique va être le tracé du chemin. Mais c'est là-dessus que j'insiste. C'est un chemin qui ne préexiste pas. C'est vraiment l'éthique qui, dans le monde le plus fermé du premier genre de connaissance, va tracer le chemin qui rend possible une sortie du premier genre. Or, si j'essaie de résumer cette démarche, parce que ça me paraît vraiment la démarche de l'éthique, comment sortir de ce monde, encore une fois, de l'inadéquat et de la passion? Voici le fondamental, c'est les étapes de cette sortie. Si je résume tout, je dirais, la première étape est celle-ci. On s'aperçoit qu'il y a deux sortes de passions. On reste dans la passion, on reste dans le premier genre. Mais voilà, et c'est ça qui va être décisif, c'est une distinction entre deux sortes de passions. Il y a des passions qui augmentent ma puissance d'agir, ce sont les passions de joie. Il y a des passions qui diminuent ma puissance d'agir, ce sont les passions de tristesse. Les unes comme les autres sont des passions. Pourquoi ? Les unes comme les autres sont des passions puisque je ne possède pas ma puissance d'agir. Même quand elle augmente, je ne la possède pas. Bon. Donc, je suis pleinement encore dans le premier genre de connaissance. Ça, c'est la première étape. Distinction des passions joyeuses et des passions tristes. J'ai les deux. Pourquoi? Parce que les passions tristes, c'est l'effet sur moi de la rencontre avec des corps qui ne me conviennent pas, c'est-à-dire qui ne se composent pas directement avec mon rapport. Et les passions joyeuses, c'est l'effet sur moi de ma rencontre avec des corps qui me conviennent, c'est-à-dire qui composent leur rapport avec mon rapport. Deuxième étape. Lorsque j'éprouve des passions joyeuses, vous voyez, les passions joyeuses, elles sont toujours dans le premier genre de connaissances. Mais lorsque j'éprouve des passions joyeuses, effet de rencontre avec des corps qui conviennent avec le mien, lorsque j'éprouve des passions joyeuses, ces passions joyeuses augmentent ma puissance d'agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles m'induisent, elles ne me déterminent pas, elles m'induisent, elles me donnent l'occasion. Elle me donne l'occasion, elle m'invite à former la notion commune. Notion commune à quoi? Notion commune aux deux corps, le corps qui m'affecte et mon corps. Vous voyez, ça c'est une deuxième étape. Première étape, les passions joyeuses se distinguent des passions tristes parce que les passions joyeuses augmentent ma puissance d'agir tandis que les passions tristes la divisent. Deuxième étape, ces mêmes passions joyeuses m'induisent à former une notion commune. Commune au corps qui m'affecte et à mon propre corps. Question subordonnée à cette deuxième étape. Et pourquoi les passions tristes ne m'induisent pas à former des notions communes? Sinon, ça est très fort, on peut le démontrer mathématiquement. Parce que lorsque deux corps disconviennent, lorsque des corps ne conviennent pas, s'ils ne conviennent pas, ce n'est jamais par quelque chose qui leur est commun. Si deux corps disconviennent, c'est par leur différence ou leurs oppositions, et non pas par un quelque chose qui leur serait commun. En d'autres termes, les passions tristes, réfléchissez bien, parce que c'est très... Il y a un passage théorique à comprendre, mais c'est très pratique, en fait. Les passions tristes, c'est l'effet sur mon corps d'un corps qui ne convient pas avec le mien, c'est-à-dire qui ne compose pas son rapport avec mon propre corps. Dès lors, la passion triste, elle est l'effet sur mon corps d'un corps qui est saisi sous l'aspect où il n'a rien de commun avec le mien. Ce même corps, si vous arrivez à le saisir sous l'aspect où il a quelque chose de commun avec le vôtre, à ce moment-là, il ne vous affecte plus d'une passion triste. Quand il vous affecte d'une passion triste, c'est parce que vous saisissez cet autre corps comme incompatible avec le vôtre. Donc, Spinoza peut très bien dire, seules les passions joyeuses et non les passions tristes m'invitent à former une notion commune. Vous vous rappelez, ces notions communes, ce n'est pas du tout des choses théoriques. C'est des notions extrêmement pratiques. C'est des notions pratico-éthiques. Il ne faut pas du tout en faire, ça on ne comprend rien si on en fait des idées mathématiques. Donc, voilà que la passion joyeuse, qui est l'effet sur moi d'un corps qui convient avec le mien, m'invite à former la notion commune aux deux corps. Je dirais, à la lettre, pour rendre compte de cette deuxième étape, les passions joyeuses se doublent de notions communes. Or, les notions communes, elles, sont nécessairement adéquates. On l'a vu, je ne reviens pas là-dessus. Donc, vous voyez par quel cheminement. Alors, on avait tendance à le dire, mais jamais on pourra sortir du premier genre de connaissances. Il y a un cheminement, mais c'est une ligne très brisée. Si j'ai pris conscience de la différence de nature entre les passions joyeuses et les passions tristes, je m'aperçois que les passions joyeuses me donnent le moyen de dépasser le domaine des passions. C'est pas que les passions sont supprimées. Elles sont là, elles restent. Le problème de Spinoza, c'est pas faire disparaître les passions, c'est comme il le dit lui-même, qu'elles n'occupent finalement que la plus petite partie relative de moi-même. Bon, mais ça veut dire quoi? Qu'elle n'occupe que la plus petite partie relative de moi-même. C'est pas tout fait, là aussi. C'est à moi de fabriquer des parties de moi-même qui ne sont plus soumises aux passions. Rien n'est donné. Rien n'est donné d'avance. Mais alors, comment fabriquer des parties de moi-même qui ne seraient plus soumises aux passions? Voyez la réponse de Spinoza. Je fais la différence entre passion triste et passion joyeuse. J'ai des passions tristes, d'accord. Je m'efforce autant qu'il est en moi, comme il dit suivant sa formule, d'éprouver le plus de passions joyeuses possible et le moins de passions tristes possible. Bon. C'est ce que je peux. Tout ça, c'est très, très pratique. C'est ce que je peux. Vous direz, ça va ça, ça fait tout seul. Non, parce que comme le signale très bien Spinoza, on ne cesse pas. Les gens, ils ne cessent pas de s'empoisonner la vie, ils ne cessent pas de se vautrer dans la tristesse, ils ne cessent pas de. Bon, tout l'art des situations impossibles dont on a parlé, se mettre dans des situations impossibles, tout ça, bon. Il faut déjà une sagesse pour sélectionner les passions de joie, essayer d'en avoir le plus possible. Bien. Et là-dessus, ces passions de joie, elles restent, elles subsistent comme passions. Elles m'induisent à former des notions communes, c'est-à-dire les idées pratiques de ce qu'il y a de commun entre le corps qui m'affecte de joie et mon corps. Ces notions communes sont des idées adéquates, et elles seules. Entre un corps qui ne me convient pas, entre un corps qui me détruit et mon corps, il n'y a pas de notion commune. car l'accès sous lequel un corps ne me convient pas est incompatible avec la notion commune. En effet, si un corps ne me convient pas, c'est sous l'aspect où il n'a rien de commun avec moi. Sous l'aspect sous lequel il a quelque chose de commun avec moi, il me convient. C'est évident, c'est sûr. Quand vous voyez, au point où j'en suis seconde étape, j'ai formé des notions communes. Mais ces notions communes, si vous les prenez pratiquement, si vous n'en faites pas des idées abstraites, l'idée du rapport commun, c'est-à-dire, et en même temps, je le construis, un rapport commun entre le corps qui me convient et mon corps, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire la formation d'un troisième corps dont nous sommes le corps et moi, les parties. Ça ne résiste pas, ça non plus. Ce troisième corps aura un rapport composé qui se trouvera et dans le corps extérieur et dans mon corps. C'est ça l'objet d'une notion commune. Donc des notions communes découleront, des notions communes qui sont des idées adéquates, découleront des affects, des sentiments. Surtout ne confondez pas, voilà ce que je voulais dire, surtout ne confondez pas les affects qui sont à l'origine des notions communes et les affects qui découlent des notions communes. Cette confusion, ce serait un très grave contresens, c'est-à-dire à ce moment-là, le titre, elle pourrait plus fonctionner. Si vous dites, c'est grave. Quelle différence y a-t-il entre les deux sortes d'affects? Les affects qui sont à l'origine des notions communes, je viens d'essayer de dire ce que c'était, ce sont les passions joyeuses. Les passions joyeuses, encore une fois je me répète pour que ce soit très clair, j'espère, les passions joyeuses étant l'effet sur moi d'un corps qui convient avec mon corps, m'induisent à former la notion commune, c'est-à-dire l'idée de lien commun entre les deux corps. Et l'idée de lien commun entre les deux corps, c'est l'idée d'un troisième corps, dont le corps extérieur et le mien sont les parties. Donc vous voyez que les sentiments qui m'induisent à former une notion commune, ce sont des passions de joie. Ce sont les passions de joie. On a vu que les passions de tristesse ne nous induisaient pas à former des notions. Tandis que les sentiments qui découlent des notions communes, ça n'est plus des passions de joie. Ce sont des affects actifs. Puisque les notions communes sont des idées dynamiques, elles sont des idées adéquates, il en découle des affects qui ne se contentent pas d'augmenter ma puissance d'agir, comme les passions joyeuses, il en découle des affects qui, au contraire, dépendent de ma puissance d'agir. Faites très attention à la terminologie de Spinoza. Et ne confondez pas, car lui ne le confond jamais, les deux expressions, ce qui augmente ma puissance d'agir et ce qui découle de ma puissance d'agir. Ce qui augmente ma puissance d'agir, c'est forcément une passion, puisque pour que ma puissance d'agir augmente, il faut bien supposer que je n'en ai pas encore la possession. Ma puissance d'agir augmente au point que je tends vers la possession de cette puissance, mais je ne l'ai pas. Ça, c'est l'effet des passions joyeuses. Et si je forme sous l'action des passions joyeuses, je forme une notion commune. À ce moment-là, je possède ma puissance d'agir. Parce que la notion commune, elle s'explique par ma puissance. Elle s'explique par ma puissance. À ce moment-là, donc, j'entre en possession de ma puissance.
en possession formelle. Je possède formellement ma puissance. De cette possession formelle de ma puissance d'agir par la notion commune, découle des affects actifs. Si bien que si j'essaie de résumer tous ces moments, je dirais, les affects actifs qui découlent eux-mêmes des notions communes, c'est la troisième étape. Je dirais, voilà les trois étapes. Première étape, vous sélectionnez autant que vous pouvez les passions joyeuses. Deuxième étape, vous formez des notions communes. Ça, c'est bien fait, ça, hein. Vous formez des notions communes qui viennent doubler les passions joyeuses. Elles ne les suppriment pas, elles viennent doubler les passions joyeuses. Troisième étape, de ces notions communes qui doublent les passions joyeuses, découlent des affects actifs qui redoublent les passions joyeuses. À la limite, les passions et les idées inadéquates n'occupent plus, mais je ne pouvais pas le dire avant, il fallait le faire, n'occupent plus que la plus petite partie proportionnelle de vous-même. Et la plus grande partie de vous-même est occupée par des idées adéquates et des affects actifs. Dernière étape, en effet, les notions communes et les affects actifs qui découlent des notions communes vont elles-mêmes être doublées par de nouvelles idées, de nouveaux affects ou de nouveaux affects, les idées et les affects du troisième sens, c'est-à-dire ces auto-affections-là qui nous restent un peu mystérieuses. Et qui définiront le troisième genre, alors que les notions communes définissaient seulement le deuxième genre. Voyez. Alors, moi, il y a une chose qui me fascine pour en finir avec tout ça. La chose qui me fascine, c'est ceci, c'est que pourquoi est-ce que Spinoza ne le dit pas? Évidemment, la réponse, elle doit être complexe. En fait, s'il ne le disait pas, c'est que tout ça, ce serait faux, ce que je dis. Il faut bien qu'il le dise. Et il le dit. Bon, alors ma question se transforme. S'il le dit, pourquoi il ne le dit pas très clair? Eh bien, moi je crois, là c'est simple, il ne pouvait pas faire autrement. Il le dit où ça? Il le dit, et ça fait ordre très curieux. Idées inadéquates et passions joyeuses, sélection des passions joyeuses. Deuxième étape, formation des notions communes et affects actifs qui découlent des notions communes. Troisième étape, troisième genre de connaissance, idée des essences, non plus notions communes, mais idée des essences singulières et affects actifs qui en découlent. Ces trois étapes, il les présente comme trois étapes successives, mais dans le cinquième livre. Le cinquième livre, ce n'est pas un livre facile, on a vu pourquoi. C'est un livre de toute vitesse. Et encore une fois, pas parce qu'il est mal fait ou vite fait, parce que au troisième genre de connaissance, on atteint une espèce de vitesse de la pensée. Hein. Que Spinoza suit et qui fait de l'éthique et qui donne à l'éthique cette terminaison admirable, quoi. C'est une espèce de terminaison là, à toute allure, une espèce de terminaison éclair. Bon. Il le dit donc dans le cinquième livre, il me semble. Notamment, j'attire votre attention sur un théorème, sur une proposition. Au début du cinquième livre, Spinoza dit « Tant que nous ne sommes pas tourmentés par des sentiments contraires à notre nature, nous pouvons... » Pour moi, c'est le texte, c'est un texte fondamental, puisque on ne peut pas dire plus clairement qu'est-ce que c'est que des sentiments contraires à notre nature, pour garder le contexte, c'est l'ensemble des passions de tristesse. En quoi les passions de tristesse ou les sentiments de tristesse sont-ils contraires à notre nature? À la lettre, en vertu de leur définition même. À savoir, ce sont les effets de la rencontre de mon corps avec des corps qui ne conviennent pas avec ma nature. Donc, c'est à la lettre des sentiments contraires à ma nature. Eh bien, tant que nous ne sommes pas tourmentés par des sentiments, c'est-à-dire, en tant que nous sommes tourmentés par de tels sentiments, en tant que nous avons une tristesse, que nous éprouvons une tristesse, pas question de former une notion commune relative à cette tristesse. Je ne peux former une notion commune qu'à l'occasion de joie. C'est ça. De joie passive. Seulement, lorsque j'ai formé une notion commune à l'occasion d'une joie passion, à ce moment-là, ma joie passion se trouve doublée, d'idées adéquates. Notion commune du second genre et idée des essences du troisième genre, et redoublée par des affectatifs. Affectatif du deuxième genre et affectatif du troisième genre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, il n'y a pas tellement de nécessité. Là, j'insiste pour en terminer. Mais ce qui me trouve, c'est que, évidemment, les passions joyeuses m'induisent à former. Ça, c'est comme un bon usage de la joie. Mais on conçoit à la limite quelqu'un qui éprouverait des passions joyeuses, par le hasard serait bon, le sort le favoriserait, il aurait beaucoup de joie. Et il n'y aurait pas, il ne formerait pas de notion commune. Il resterait tout à fait dans le premier genre de connaissance. Là, c'est évident que c'est pas une nécessité. Les passions joyeuses ne me contraignent pas à former la notion commune. Elles me donnent l'occasion. C'est là où, entre le premier et le second genre de connaissance, il y a comme une espèce de fossé. Je franchis ou je franchis pas. Si la liberté décide à un moment chez Spinoza, c'est là. Il me semble que c'est là. Je pourrais en effet rester, même éprouvant les passions joyeuses, je pourrais rester éternellement dans le premier genre de connaissance. À ce moment-là, je ferai un très mauvais usage de la joie. Si fort que je sois induit à former des notions communes, je ne suis pas à proprement parler déterminé à le faire. Voilà. En tout cas, il me semble que c'est une espèce de succession très ferme, à la fois logique et chronologique, dans cette histoire des modes d'existence ou des trois genres de connaissances. J'insiste sur cette idée de doublure ou de doublage. Au début, je suis rempli d'idées inadéquates et d'affects passifs. Et petit à petit, j'arrive à produire des choses qui vont doubler mes idées inadéquates et mes affects passifs, à les doubler par des idées qui sont, elles, adéquates et par des affects qui, eux, sont actifs. Si bien qu'à la limite, si je réussis, j'aurai toujours des idées inadéquates et des affects passifs, car ils sont liés à ma condition tant que j'existe. Mais ces idées inadéquates et ces affects passifs n'occuperont relativement que la plus petite partie de moi-même. J'aurai creusé en moi, c'est à la lettre, c'est ça. J'aurai creusé en moi des parties qui sont occupées par idées adéquates et affects passifs ou auto-affections. Voilà. Oui.
Il faut beaucoup de savoir, il faut beaucoup de la conversation.
Je réfléchis, hein, je réfléchis. Les deux ne s'opposent pas forcément. D'accord. Ça ne s'oppose pas forcément. Je répondrai en tout cas, il ne s'agit pas, parce que très souvent on a tendance à interpréter Spinoza comme ça et ça le rend vraiment ordinaire. Quoi. Il ne s'agit pas d'une science. Quoi. Encore une fois, c'est pour ça que j'insiste, les notions communes, bien sûr, elles ont un aspect. Si vous voulez, moi je dirais plutôt, par exemple, les idées géométriques. Faire de la géométrie, c'est très important pour Spinoza, pour la vie même, quoi, dans la vie. Mais les idées géométriques, ce ne sont pas elles qui définissent les notions communes. Les idées géométriques, c'est simplement une certaine manière, une certaine possibilité de traiter les notions communes. Les idées géométriques, on pourrait dire la géométrie, c'est la science des notions communes. Et les notions communes, elles ne sont pas en elles-mêmes une science, elles sont un savoir. Mais c'est presque un savoir-faire. Alors, quant à votre question précise, je dirais, Anne a très bien dit, il y a trois choses en fait dans vos termes. Je dirais, les notions communes, elles ne s'opposent pas du tout à l'idée d'un jeu. Un véritable jeu au sens très large des notions communes, puisque c'est un jeu de composition. Il y a notion commune dès qu'il y a composition de rapport. Alors je peux toujours essayer de composer. Ça s'oppose sûrement à l'improvisation, puisque ça implique et ça suppose d'abord la longue démarche sélective, où j'ai séparé mes joies de mes tristesses. Si tu penses à l'improvisation, en effet définie comme le sentiment, alors une espèce de sentiment vécu de la composition des rapports, par exemple, en effet, dans l'exemple du jazz, on peut tout prendre, mais dans l'exemple du jazz, par exemple, la trompette entre à tel moment, hein, c'est exactement, je crois, ce que le mot anglais timing dit, le timing, hein, c'est-à-dire le timing. Il y a des mots, là, le français n'a pas ces mots. Les Grecs avaient un mot très intéressant qui correspond exactement au timing américain. C'était le kairos. Le kairos, c'est une notion tout à fait... les Grecs s'en servent énormément. Le kairos, c'est exactement le bon moment. Ne pas rater le bon moment. C'est aussi bien, on traduit, mais le français n'a pas un mot aussi fort. Il y avait un dieu, il y avait une espèce de puissance divine du kairos chez les Grecs. Hein. L'occasion favorable, l'opportunité, le truc. Alors, ah bah oui, c'est le moment où la trompette peut prendre les choses là.
L'agencement collectif, il se construit dès que chacun comprend quels sont les rapports qui le constituent. Enfin, il n'y a rien d'autre qui puisse lui permettre en plus. Bah, bien sûr. Mais c'est pas une improvisation, c'est une connaissance des rapports qui se constituent.
La notion d'agencement collectif, est difficile parce qu'elle ne peut pas beaucoup nous apporter des lumières quant à Spinoza, surtout que Spinoza, lui, il emploie son mot qui vaut largement celui-là. Quand il dit notion commune, encore une fois, ça veut dire quelque chose de réflexif. Je crois même que c'est finalement impossible pour lui, selon lui, que je, moi, individu pensant, que je forme, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, comprenez, je ne peux pas former, c'est une notion tellement peu intellectuelle, la notion commune, tellement vivante, que je ne peux pas former une notion commune, c'est-à-dire l'idée de quelque chose de commun entre mon corps et un corps extérieur, sans que se constitue, encore une fois, un troisième corps, dont le corps extérieur et moi, nous ne sommes que les parties. Si je forme la notion commune de mon corps et du corps de la mer, de la vague, si je reprends mon exemple, apprendre à nager, je forme la notion commune de mon corps et de la vague. À ce moment-là, je forme un troisième corps, donc, et la vague et moi. Nous sommes les parties. En plus, sur présent, si, et c'est pour ça que Spinoza nous dit, mais c'est évidemment entre les hommes que les notions communes. Là, on voit très bien ce qu'il a dans l'esprit. Et à quel point c'est pas du tout comme, comme on le dit parfois, des notions. On les traite encore une fois. La catastrophe, c'est quand on, à mon avis, la catastrophe qui nous empêche de comprendre tout ce qu'il veut dire, c'est lorsqu'on traite les notions communes comme des trucs abstraits. Et là, ça, c'est sa faute. Mais il avait des raisons. C'est sa faute parce que lorsqu'il introduit pour la première fois les notions communes, il les introduit sous cette forme. Les notions communes les plus universelles, exemple, tous les corps sont dans l'étendue. L'étendue comme notion commune. C'est ça qui trouble le lecteur. Il a donc une raison. Mais cette raison, ça ne nous aide pas. Alors, lorsqu'il nous dit au contraire, mais finalement, les notions communes privilégiées, c'est les notions qui sont communes à plusieurs hommes. C'est-à-dire que c'est la communauté des hommes, c'est ça. C'est ça le lieu de la notion commune. En d'autres termes, là, les notions communes se révèlent comme essentiellement politiques. À savoir, c'est la construction d'une communauté, une notion commune. Là, on voit très bien à quel point ça déborde plus de loin les notions physico-mathématiques dont il se réclamait pourtant au livre 2. Dans le livre 2, comme il veut commencer par expliquer les notions communes les plus universelles, là, elles ont l'air vraiment d'être des trucs abstraits, d'être des trucs comme de science. Tous les corps sont déjà tendus, la vitesse et le mouvement comme notions communes à tous les corps, etc. Alors, si on se laisse prendre à ce moment-là, je crois qu'on perd toute la richesse concrète des notions communes. Vous comprenez, la notion commune, c'est lorsque, bon, c'est quel troisième corps vous faites avec quelqu'un que vous aimez ou que vous aimez bien. Quel rythme, oui, là, les exemples, là, l'exemple d'un, le rythme, en effet. Le rythme, c'est une notion commune à deux corps au moins. Le rythme, il est fondamentalement commun à au moins deux corps. Il n'y a pas le rythme du violon, il y a le rythme du violon qui répond au piano et du piano qui répond au violon. C'est une notion commune à ce moment-là. C'est la notion commune de deux corps, le corps du piano et le corps du violon, sous l'aspect, sous tel ou tel aspect, c'est-à-dire sous l'aspect du rapport. Du rapport qui constituera telle œuvre musicale et qui forme le troisième. Vous voyez, c'est donc très contre. Oui, alors je dirais, oui, tout est possible dans cette question. C'est pas n'importe quel savoir, c'est pas n'importe quel jeu, puisque c'est un jeu de composition, de combinaison, avec compréhension des rapports. Alors, l'expression jeu est évidemment très ambiguë, parce que je conçois des jeux qui consisteraient, par exemple, uniquement comme des jeux de hasard. Si on ne cherche pas une martingale, dès qu'on cherche une martingale, pourtant c'est des exemples abominables pour Spinoza, Or, vous pouvez jouer de telle manière que vous subissez simplement des effets, et c'est très amusant. Vous subissez des effets. Par exemple, vous jouez à la roulette au hasard. Hein? Vous subissez des effets. La roulette russe, vous faites de la roulette un usage mortuaire. Oui, ça peut arriver. Bon, alors ça, c'est les passions de tristesse. Vous jouez, vous gagnez ou vous perdez, vous êtes triste, à moins que vous soyez particulièrement bizarre. Vous gagnez, vous êtes content, mais c'est de la passion. Qu'est-ce que ce serait chercher une martingale, hein, la roulette? Bon, enfin, voyez les gens qui cherchent des martingales, c'est du boulot, quoi, c'est pas de la science, mais c'est du travail. Bien, ça veut dire quoi, là? Ils s'élèvent, ils essaient, maintenant peut-être qu'ils ont complètement tort, je sais bien que Spinoza, il dirait évidemment que c'est pas une matière de notion commune, que je sais précisément. C'est condamné au premier genre de connaissance. Mais imaginons un spinoziste joueur. Il dirait que dans la tentative d'élaborer une martingale, il y a déjà recherche de rapports communs. Il recherche des espèces de rapports et des lois de rapports. Bon, on ne peut pas dire que ce soit une recherche scientifique, c'est une recherche de savoir. Hein, c'est tout un métier, c'est toute une... Qu'est-ce que c'est, là? Est-ce qu'on arrive à une notion commune qui serait une idée adéquate? Il y a un petit traité, là pourtant il s'intéresse un peu à ces questions, puisqu'il participe, comme tout le XVIIe siècle, c'est un siècle de joueurs, vous savez, le XVIIe. Il participe, il a fait en hollandais un très petit traité, quelques pages, qui s'intitule « Calcul des chances hein. ». Comme tout le monde, il réfléchit sur les jeux de dés, sur le jet des dés, tout ça c'est la naissance du calcul des probabilités, c'est pas seulement Pascal. Et tous les mathématiciens du temps s'intéressent énormément aux probabilités. Et il y a un petit traité de Spinoza. Ah, c'est curieux. Ça devient intéressant, mais enfin, c'est pas la joie spinoziste. Hein. C'est pas la joie spinoziste. Voilà, ben je vous laisse le soin de poursuivre tout ça, hein, mais surtout poursuivez-le avec l'éthique, avec la lecture. Hein.
Les rares discussions que j'ai pu avoir avec des musiciens géniaux m'ont donné l'intuition qu'à partir du moment où on est pris en charge par le professeur, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui se commande, mais à partir du moment où il y a cette rencontre, il y a une impossibilité totale de l'éviter. C'est-à-dire qu'il y a une caractéristique de nécessité, de sauf à casser tous les rapports, c'est-à-dire vous,
Ouais, et en même temps, je crois beaucoup que même à ce niveau, il ne dit pas ça comme ça, Spinoza. Donc on ne parle plus de Spinoza. J'ai l'impression que, en même temps, si forte soit la certitude du troisième genre, tout encore peut être gâché. C'est passant la vie en ensemble. Et ça nous introduit là ce qu'on va faire maintenant. Il n'y a pas un moment où, quelle que soit la certitude que j'ai, elle peut être grandiose, tout peut être gâché. C'est curieux. Tout peut s'écrouler, pourquoi là? Eh bien, je peux être comme emporté par la puissance, là, au lieu de la combiner, tout ça, je peux être emporté. Une espèce d'exaspération. Peut toujours se produire une exaspération. L'exaspération, c'est quand tout d'un coup, bon, la puissance, enfin, il n'y a plus de mots, quoi. Bref, je crache. Voilà, vous comprenez, ceci nous introduit très bien, alors à ce que je voudrais faire pour le reste de l'année, et ça suppose que je m'adresse à ceux, raison de plus, je ne prétends pas du tout dire des choses d'un grand savoir. Je voudrais parler de la peinture de telle manière. Je voudrais parler de la peinture, moi je ne suis pas sûr, on verra après, que la philosophie et quoi que ce soit apporté à la peinture. C'est même
je ne sais pas, si c'est peut-être pas comme ça qu'il faut poser les questions, si on n'importe quoi. Mais j'aimerais mieux poser la question inverse, à savoir la possibilité que la peinture ait à apporter quelque chose à la philosophie et que la réponse ne soit pas du tout univoque. Je veux dire, qu'on ne puisse pas décalquer la même réponse pour la musique, pour la peinture. La musique, ça nous est arrivé d'avoir besoin, là, ce n'était pas par goût, choix d'un cours, d'avoir besoin de se référer à elle, parce que les autres années, parce que on attendait d'elle, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que la philosophie peut attendre de choses comme la peinture, comme la musique, et ce qu'elle attend, c'est encore une fois des choses très très différentes. Il faut aussi, la philosophie attend quelque chose de la peinture, c'est quelque chose que seule la peinture peut lui donner. Alors quoi, c'est quoi? Des concepts peut-être, mais est-ce que la peinture ne s'occupe pas de concepts? Bon, mais, après une question déjà lancée, est-ce que la couleur est un concept? Est-ce que la couleur est un concept? Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est un concept de couleur? Qu'est-ce que c'est la couleur comme concept? Ça se sert. Si la peinture apporte ça dans la philosophie, hein, c'est, qu'est-ce que ça va entraîner la philosophie pour ça, hein? Je veux dire, comment faire? Comment faire pour moi, là, pour... là, je voudrais que... Il y a évidemment un problème aussi, parler de la peinture. Ça veut dire quoi, parler de la peinture? Ben, je crois que ça veut dire, effectivement, former des concepts qui sont en rapport direct avec la peinture, et avec la peinture seulement. Voilà, bon. À ce moment-là, en effet, la référence à la peinture devient essentielle. Si vous comprenez, même si confusément, ce que je veux dire, à ce moment-là, j'ai résolu déjà une question. À savoir, parler de la peinture, tout ça, bon, je suppose que ceux qui suivront... ils en savent autant que moi, bien plus même parfois, sur la peinture. Hein. Ce que je ne veux pas, c'est amener des reproductions. Hein, alors on n'a même plus envie de parler, hein, on se dit, oh ben oui, qu'est-ce qu'il peut dire ça. Donc, moi je fais appel à votre mémoire, c'est dans des cas très rares hein, que je montrerai une petite image. Hein. C'est quand j'aurai vraiment besoin. Sinon, bon, ben, vous cherchez dans votre mémoire, ou vous allez voir vous-même, ou bien... Mais ça ira tout seul, il n'y a pas besoin de reproduction. Alors voilà, chaque fois peut-être, je ne prétends pas non plus dire, me demander qu'est-ce que l'essence de la peinture. Hein. Donc, chaque fois, je voudrais là, pour que vous, que ceux qui suivront cette série de recherches, là, j'essaierai presque d'indiquer très ferme le thème que je prends chaque fois et les peintres auxquels je me réfère, parce qu'il n'y a aucune raison de l'unité de la peinture, ben, elle fait problème, on n'a aucune raison de se la donner, hein. Je veux dire, aucune raison de se la donner, par exemple. On sera bien amené à se demander quand même au niveau des matériaux, là aussi, c'est peut-être à faire avec des concepts philosophiques. Même dans des choses aussi voisines, l'aquarelle et l'huile. Et l'huile et l'acrylique aujourd'hui, tout ça. Bon, est-ce que c'est pas les mêmes choses? L'unité de la peinture, elle est où? Est-ce qu'il y a un genre commun de l'aquarelle, de l'huile et de l'acrylique? Tout ça, je sais pas, enfin, on ne se donne rien. Hein. Non. Moi, j'ai choisi les thèmes qui m'intéressaient, et puis, et parfois, ça débordera sur de la philosophie, ce sera les bons moments pour moi. C'est lorsque la peinture m'aura imposé précisément une lueur pour moi nouvelle, sur des concepts philosophiques. Bon, essayons. Hein. Alors, je dis qu'aujourd'hui, toute ma recherche est tendue sur cette notion dont j'avais un peu parlé une fois. La notion de catastrophe. La notion de catastrophe qui suppose quoi? Qui suppose évidemment que la peinture ait avec la catastrophe un rapport très particulier. Et ça, j'essaierai pas de le fonder théoriquement d'abord. c'est comme une impression, comme ça. Un rapport très particulier, ça veut dire que l'écriture, la musique, n'aurait pas ce rapport avec la catastrophe, ou pas le même, ou pas aussi direct, ou... Et les peintres très précis, on voudrait justement vous faire sentir à quel point c'est des exemples limités, pour que ensuite on puisse chercher si ça veut dire quelque chose de général sur la peinture, ou si ça ne vaut que pour certains peintres, j'en sais rien d'avance. Les peintres sur lesquels je voudrais m'appuyer, je les prends dans une époque relativement la même, hein, et relativement récente. Je les prends, je te dis tout de suite, je voudrais m'appuyer sur cette... série La Catastrophe, on verra où elle nous entraîne. Je prends comme exemple Turner, peintre anglais 19e, hein, grand peintre anglais, enfin je l'entends bien très grand, bien sûr. Turner, Cézanne, Van Gogh, Paul Klee, et un moderne, encore anglais, Bacon. Bien. Voilà ce que je veux dire. Hein, et je suis tout à fait prudent, hein, très très prudent. Je dis, on est tous frappés dans un musée, on est tous frappés par un certain nombre de tableaux. Il n'y a plus de musée qui ne présente pas quand même quelques tableaux de ce type. Des tableaux qui peignent une catastrophe. Catastrophe de quel type ? Par exemple, quand la peinture découvre les montagnes, tableau d'avalanche, tableau de tempête, la tempête, l'avalanche, etc. Bon. Cette remarque dénuée de tout intérêt. Il y a même une peinture romantique où ce thème, une certaine catastrophe, semble bien. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? C'est idiot. Et non, parce que je remarque que ces peintures de catastrophe, hein, elles étendent à tout le tableau quelque chose qui est toujours présent dans... qui est peut-être très souvent, oui, je vous corrigez de vous-même, hein, je le dis jamais toujours, hein, qui est très souvent présent dans les tableaux. À savoir, ils étendent à tout le tableau, ces tableaux de catastrophe, ils étendent à tout le tableau, ils généralisent une espèce de déséquilibre, de choses qui tombent, de chutes, de déséquilibre. Or, peindre d'une certaine manière, ça a toujours été peindre des déséquilibres locaux. Pourquoi ? Pourquoi c'est très important, le thème de la chose en déséquilibre ? Un des écrivains qui a écrit le plus profondément, là, vraiment le plus profondément sur la peinture, c'est Claudel. Hein. Notamment dans un livre splendide qui s'intitule « L'œil écoute ». Et qui porte surtout sur les Hollandais. Or, Claudel le dit très bien, il dit « qu'est-ce que c'est qu'une composition ?» Vous voyez, ça c'est un terme pictural. Qu'est-ce que c'est qu'une composition en peinture ? Il dit « eh ben, c'est un ensemble, il dit une chose très curieuse, il en parle à propos justement des maîtres hollandais. » Puis regardez, une composition, c'est toujours un ensemble, une structure, mais en train de se déséquilibrer, ou en train de se désagréger. Bon, on retient que ça pour le moment. Le point de chute, un verre dont on dirait qu'il va se renverser. Un rideau dont on dirait qu'il va retomber.
Bon, là, alors, il n'y a même pas besoin d'invoquer Cézanne. Hein. Les peaux de Cézanne, l'étrange déséquilibre de ses peaux. Comme s'ils étaient vraiment saisis à l'aurore, à la naissance d'une chute. Bien, je me dis, bon, très bien. Je ne sais plus s'il y avait un contemporain de Cézanne qui parlait de poterie saoule. Les poteries saoules. Alors je me dis, bon, une peinture, une avalanche, tout ça, c'est le déséquilibre généralisé. Bien. Mais enfin, ça ne va pas loin. Parce qu'à première vue, on reste dans le tableau, dans ce que le tableau représente. Aussi, je vais parler d'une autre catastrophe quand je m'interroge sur l'importance d'une catégorie comme celle de catastrophe en peinture. À savoir, une catastrophe qui affecterait l'acte de peindre en lui-même. Voyez, on va de la catastrophe représentée, soit la catastrophe locale, soit la catastrophe d'ensemble sur le tableau, à une catastrophe beaucoup plus secrète. Catastrophe qui affecte l'acte de peindre en lui-même. Et ma question devient, bon, comme ça, est-ce que l'acte de peindre peut être défini sans cette référence à une catastrophe qui l'affecte? Est-ce qu'au plus profond de lui-même, l'acte de peindre, je corrige, j'adoucis chez certains peintres, on verra, n'affronte pas, ne comprend pas cette catastrophe, même lorsque ce qui est présenté n'est pas une catastrophe. En effet, les poteries de Cézanne, ce n'est pas une catastrophe, il n'y a pas un tremblement de terre. Les vers de Rembrandt, il n'y a pas une catastrophe. Bon, donc il s'agit d'une catastrophe plus profonde qui affecte l'acte de peindre en lui-même. Qu'est-ce que ce serait? Au point que l'acte de peindre ne pourrait pas être défini sinon. L'exemple, je voudrais prendre des exemples, comme on fait des exemples musicaux, prendre des exemples picturaux. L'exemple pour moi fondamental, c'est Turner. Car chez Turner, on verrait ça comme une espèce d'exemple typique. Lui aussi, dans sa première, il a comme deux périodes, deux grandes périodes. Et dans la première période, il peint beaucoup de catastrophes. Ce qui l'intéresse dans la mer, c'est les tempêtes. Ce qui l'intéresse dans la montagne, c'est souvent des avalanches. Donc, c'est une peinture d'avalanches, de tempêtes, bien. Bon, il a déjà bien du génie. Qu'est-ce qui se passe vers 1800, tout le monde est d'accord sur cette assignation des dates, vers 1830? Ça, j'en aurais besoin tout à l'heure. Comme si cette catastrophe qui affecte l'acte de peindre, ben, elle peut bizarrement être datée, en gros. Pour Turner, 1830. Vers 1830, bon, tout se passe comme si il entrait dans un nouvel élément si profondément, pourtant qu'il reste lié à sa première manière. Ce nouvel élément, c'est quoi? La catastrophe est au cœur de l'acte de peindre. Comme on dit, les formes s'évanouissent. Ce qui est peint et l'acte de peindre tendent à s'identifier sous quelle forme? Sous forme de jets de vapeur, de boules de feu, où plus aucune forme ne garde son intégrité, ou simplement des traits suggèrent, on procède par traits, dans quoi? Dans une espèce de brasier, comme si tout le tableau la sortait d'un brasier, une boule de feu, dominante célèbre de Turner, le jaune d'or. Une espèce de fournaise, bon.
des bateaux fendus par cette fournaise. Exemple typique, essayez de voir une reproduction, un tableau dont le titre est compliqué. Lumière et couleur. Il l'a appelé lui-même lumière et couleur. Entre parenthèses, théorie de Goethe. Puisque Goethe a fait une théorie des couleurs, le titre donné donc est Lumière et couleurs, théorie de Goethe, le lendemain du déluge. On aura besoin de tout ça. Donc, c'est de voir. Or, le tableau est dominé par une espèce de gigantesque et admirable boule de feu. Le boule d'or, qui assure l'espèce de gravitation de tout le tableau. Bon. Alors, oui, à 13h, pas tout de suite, non. Oui, si, hein, oui. Ne terminons pas dans 2 minutes, hein, très bien. Okay. Oui, je termine ce projet. Oui, pourquoi ça m'importe ce titre, hein? Là aussi, Turner qui a laissé des masses d'aquarelles par Yass, c'est l'histoire de Turner à la fin, est très très, comme on dit, il était tellement en avance sur son temps qu'il ne montrait pas ses tableaux, hein. Il les mettait dans des caisses, tout ça, il a légué tout ça à l'État, à l'Angleterre, qu'il a laissé longtemps en caisse d'ailleurs, et puis il y a l'admirable et fâcheux à la fois Ruskin, qui était son admirateur passionné, qui en a brûlé beaucoup pour cause de pornographie. Enfin, ça a été catastrophique, un texte de Ruskin, il y a une déclaration de Ruskin qui fait frémir, mais enfin, personne ne peut condamner personne, où Ruskin dit « Je suis fier, très fier de l'avoir fait, d'avoir brûlé toutes sortes de liasses de dessins et d'aquarelles de Turner ». Mais enfin, le mérite de Ruskin reste, parce qu'il a été un des seuls à comprendre Turner de son vivant. Et bien, toutes sortes de liasses d'aquarelles sont baptisées par Ruskin « Naissance ou commencement de la couleur ». Je ne voudrais pas en dire plus pour ce début. Voilà donc, si vous voulez, Turner me sert pour dire « Voilà un cas, il faut du tout que ce soit général, ou... » On passe d'une peinture qui représente dans certains cas des catastrophes, des types avalanches, tempêtes, à une catastrophe infiniment plus profonde, catastrophe qui concerne l'acte de peindre, qui affecte l'acte de peindre au plus profond, et, j'ajoute, tout ce qu'on recueille pour le moment. Et cette catastrophe est inséparable, cette catastrophe dans l'acte de peindre est inséparable d'une naissance. Naissance de quoi? Naissance de la couleur. On a presque un problème là. Vous voyez, on l'a construit comme involontairement. Fallait-il que l'acte de peindre passe par cette catastrophe pour engendrer ce avec quoi il a affaire, à savoir la couleur? Fallait-il passer par la catastrophe dans l'acte de peindre pour que la couleur naisse, la couleur comme création picturale? Bon, à ce moment-là, il faut croire que la catastrophe qui affecte l'acte de peindre, elle est aussi autre chose que sa catastrophe. Qu'est-ce que c'est? On n'a pas beaucoup avancé. Qu'est-ce que c'est cette catastrophe? Si vous voyez un Turner de la fin, je suppose, si vous l'avez présent à l'esprit, sinon vous le verrez, vous acceptez le terme catastrophe. Et pourquoi alors viennent à ce moment-là notre rescousse, je passe à comme toute autre chose, des peintres qui emploient le mot. Qui emploient le mot, qui disent oui. La peinture, l'acte de peindre passe par le chaos, ou par la catastrophe. Et ils ajoutent seulement, voilà, quelque chose en sort. Mais notre idée se confirme. Nécessité de la catastrophe dans l'acte de peindre pour que quelque chose en sorte. Qu'est-ce qui en sort? C'est bizarre.
Est-ce que je choisis des peintres de la même tendance? Je ne sais pas. Mais la réponse est la même. Pour qu'en sorte la couleur. Pour qu'en sorte la couleur. Et c'est un catastrophe. Le grand mot très drame. Que la catastrophe affecte l'acte de peintre. Pour qu'en sorte quoi la couleur. Pour que, dit Cézanne, la couleur monte. Et Paul Klee, nécessité du chaos pour qu'en sorte ce qu'il appelle l'œuf. La cosmogenèse. L'œuf ou la cosmogenèse. Et en même temps panique. Mon Dieu, enfin le Dieu des peintres, s'il empêche que la catastrophe prenne tout, qu'est-ce qui se passe si la catastrophe prend tout de telle manière que rien n'en sort? Alors est-ce qu'il y aurait à cet égard, est-ce qu'il y a à ce niveau un danger de peindre? Il y aurait danger de peindre, hein? C'est quoi? Si le peintre affronte, même là, on est sorti, je crois, de la littérature, s'il y a bien cet effet de catastrophe pour le peintre lui-même, pour quelque chose qui concerne le peintre, s'il affronte cette catastrophe dans l'acte, le peintre, s'il ne peut pas peindre, sauf qu'une catastrophe affecte au plus profond son acte, mais qu'en même temps, il faut que la catastrophe soit comme quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Contrôler. Qu'est-ce qui se passe si rien n'en sort? Si la catastrophe se parle? Si ça fait une bouillie. Bon, est-ce qu'on n'a pas l'impression que dans certains cas, oui, le tableau rate. Les peintres ne cessent pas de rater. Ils ne cessent pas de jeter leur tableau. Hein. Les peintres sont comme en soi. Il y a une espèce de destruction, consommation du tableau. Bon, quand la catastrophe déborde, mais est-ce qu'on peut contrôler une catastrophe, encore une fois? Certains Van Gogh, c'est juste, hein, c'est juste, on se dit, il frôle quelque chose. Bon, la folie de Van Gogh, hein, elle vient d'où? Elle vient de ses rapports avec son père ou elle vient de ses rapports avec sa couleur? J'en sais rien, en tout cas, la couleur, c'est peut-être plus intéressant. Hein? Alors, notre tâche maintenant, ça va être de voir deux textes. Car après tout, ça pose notre problème. Je n'ai pas encore parlé des textes de peintre. Je crois que ce n'est pas analogue. C'est la manière dont un peintre parle de sa peinture. Ce n'est pas la même chose que la manière dont un musicien parle de sa musique. Il y a un rapport dans les deux cas. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Je dis qu'il faut attendre un texte de peintre, des choses qui ne sont pas du tout, qui sont là, qui sont particulières. Je vais invoquer des textes supposés de Cézanne et un texte formel de Klee qui en commun nous parlait précisément de la catastrophe dans les rapports avec la peinture. Bien, je vais au secrétariat, retrouvez-vous qui est avec lui et qui s'appelait Gasquet. Et Gasquet a fait un livre sur Cézanne, très important, et dans ce livre, il rétablit, il se prend un peu pour le Platon de Socrate. C'est-à-dire, il reconstitue des dialogues, des conversations avec Cézanne, mais ce n'est pas la transcription, c'est après bien des années, ce n'est pas la transcription. Et la question, c'est qu'est-ce que Gasquet, qui lui n'était pas peintre, hein, était écrivain, qu'est-ce que Gasquet rajoute de lui-même? Beaucoup de critiques sont très méfiants à l'égard de ce texte. Moi, je suis tout à fait sur ce point, je suis tout à fait Malvinet qui considère qu'au contraire, c'est un texte qui risque bien d'être très fidèle parce que les arguments qu'on a sont très bizarres. Vous savez qu'il y a comme une espèce, là, je dis ça en passant, il y a une espèce de truc de légende, de bruit qui court. Que les peintres, on les traite toujours un peu comme si c'était des créatures incultes et pas très malignes. Dès qu'on lit qu'écrivent les peintres, on est rassuré, hein. C'est ni l'un ni l'autre. Hein. Ni l'un ni l'autre.
Or, une des raisons pour lesquelles on discute de l'authenticité du texte de Garcet, c'est que, bizarrement, Cézanne se met à parler comme un post-kantien de temps en temps. Or, Garcet connaissait assez bien la philosophie kantienne. Alors, on dit, c'est... Mais en fait, Cézanne, il aimait beaucoup parler avec les gens quand il avait confiance. Il leur demandait plein de choses. Le père Cézanne, il était très très cultivé, il ne le montrait pas ou il le montrait rarement. Il jouait un rôle étonnant de, vraiment de paysan, quoi, de bouger, alors que, vous savez, il vivait une vie. C'est très difficile de comprendre. Les peintres, ils font toujours semblant d'avoir rien lu et de rien savoir. Je crois qu'ils lisent beaucoup la nuit, tout ça. Et on peut imaginer facilement même que Gasset ait raconté à Cézanne des choses sur Kant. Et ce que comprend Cézanne, c'est très bien parce qu'il comprend beaucoup plus qu'un universitaire. Hein. Gasset lui fait dire à un moment, cette phrase très belle, « Ah ben oui, je voudrais peindre l'espace et le temps pour qu'ils deviennent les formes de la sensibilité des couleurs, car j'imagine parfois les couleurs comme de grandes entités nouménales, des idées vivantes, des êtres de raison pure. » Alors, quand le commentateur dit « Cézanne n'a pas pu dire ça », c'est Gasset qui le lui fait dire, je ne suis pas sûr, moi, qu'il n'ait pas parlé un soir de Kant, que Cézanne ait très bien compris, parce que quand je dis qu'il comprend mieux qu'un philosophe, il a très bien vu que chez Kant, le rapport nous-mêmes-phénomène était tel que, d'une certaine manière, le phénomène était l'apparition du nous-mêmes, d'où le thème, les couleurs sont les idées nous-mêmes, les couleurs sont les nous-mêmes, et l'espace et le temps, c'est la forme de l'apparition des nous-mêmes, c'est-à-dire des couleurs. Les couleurs apparaissent dans l'espace et dans le temps, mais en elles-mêmes, elles ne sont ni espace ni temps. C'est une idée très, qui me semble très, très intéressante. Je n'y vois que de haute vraisemblance. Que... Alors, bien sûr, en même temps, le texte de Gasquet, ici, c'est des choses à des lettres que ses amis ont envoyées, c'est des mélanges, oui, mais... Or, quant à l'essentiel, tout est bon pour nous. Car, dans le texte que je vais lire, je vais prendre un texte à la suite... Cézanne, je le commande presque logiquement, distingue deux moments dans l'acte de peindre. Donc il va nous apporter des choses en plein dans notre problème. Et un de ces moments, il l'appelle chaos ou abîme. Chaos ou abîme. Et le second moment, si vous lisez bien le texte, qui n'est pas clair d'ailleurs, mais c'est une conversation supposée. Le second moment, il l'appelle catastrophe. Bon. Et enfin, donc le texte s'organise logiquement, très rigoureusement. Il y a dans l'acte de peindre le moment du chaos, puis le moment de la catastrophe, et quelque chose encore du chaos-catastrophe. C'est la couleur. Bon. Quand elle sort, encore une fois, c'est pas exclu que rien n'en sorte. On n'est pas sûr, là, c'est pas donné d'avance. Voilà le texte. Je commence par le premier aspect, je dirais, quand le premier moment, à mon avis, se termine. Pour bien peindre un paysage, je dois découvrir d'abord les assises géologiques. Songez que l'histoire du monde date du jour où deux atomes se sont rencontrés, où deux tourbillons, deux anges chimiques se sont combinés. Si je mélange tout, mais tant pis, c'est pas loin, hein, de ces grands arcs-en-ciel, ces prismes cosmiques, cette aube de nous-mêmes au-dessus du néant. Bon, le style est bon, mais on nous dirait c'est du Turner. Oh, oui, peut-être, pourquoi pas. L'histoire du monde, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la première fois qu'on trouve un thème qui, à mon avis, va pour tout, la plupart des grands peintres. Le thème de « ils ne font jamais que peindre une chose, le commencement du monde ». C'est ça leur affaire, ils peignent le commencement du monde. Bon, le commencement du monde, c'est quoi? C'est le monde avant le monde.
C'est-à-dire il y a quelque chose, c'est pas encore le monde, c'est vraiment la naissance du monde. Dès lors, pourquoi est-ce que les peintres peuvent être chrétiens? Pourquoi l'histoire de la création peut les intéresser? En tant que peintre, c'est évident. C'est évident qu'ils ont affaire avec quelque chose qui concerne la création du monde. Comprenez que chaque chose, je devrais l'ajouter d'un coefficient d'essentialité. C'est-à-dire, c'est une affaire essentielle de la peinture. Nous mettre devant ça. Bon, songez que l'histoire du monde date du jour où deux atomes se sont rencontrés, deux tourbillons, deux dents chimiques. Turner, c'est des dents chimiques, d'accord, oui. C'est des dents chimiques de la couleur. Cette aube de nous-mêmes au-dessus du néant, je les vois monter, je m'en sature en lisant Lucrèce. En effet, ces hommes lisaient beaucoup Lucrèce. Bon, or en effet, l'histoire de Lucrèce, ça concerne les atomes bien sûr, les dents de l'atome, mais ça concerne aussi très bizarrement les couleurs et la lumière. Lucrèce, pas question qu'on y comprenne quelque chose si on ne tient pas compte de ce qu'il dit sur la couleur et la lumière par rapport à l'atome. Bon. Ces grands arcs-en-ciel, ces prismes cosmiques. Cette aube de nous-mêmes au-dessus du néant, je les vois monter, je m'en sature en lisant Lucrèce. Sous cette fine pluie, il se met sous une fine pluie. Sous cette fine pluie, c'est ça qu'il s'agit de peindre, cette fine pluie. Donc, comprenez, il aura beau faire un portrait, il aura beau faire une potiche, un pot, il aura beau peindre sa femme. Non, il ne faut pas oublier tout ça, c'est qu'il s'agira toujours de faire passer la fine pluie ou faire passer quelque chose de cet ordre. Hein. Sous cette fine pluie, je respire la virginité du monde. Qu'est-ce que c'est la virginité du monde? C'est le monde avant l'homme et avant le monde. Le monde avant le monde. Le monde avant l'homme et avant le monde. Bon. Qu'est-ce que c'est? Un sens aigu des nuances me travaille. Je me sens coloré par toutes les nuances de l'infini. À ce moment-là, je ne fais plus qu'un avec mon tableau. C'est bizarre, ça. Je ne fais plus qu'un avec mon tableau. Ça veut dire quoi, là? Il faut commenter précisément. Mon tableau à faire. Car comme le rêve va nous le rappeler, encore plus précisément, il n'a pas commencé à peindre. On a peut-être une raison pour mieux comprendre, déjà pour pressentir, pourquoi la catastrophe appartient-elle à l'acte de peintre. Elle appartient tellement à l'acte de peintre qu'elle est avant que le peintre commence son acte. Elle est avant. Elle va être pendant aussi. Mais elle commence avant la catastrophe. Le tableau est encore à peindre. Sous cette fine pluie, je respire la virginité du monde, un sens aigu du travail, c'est le travail pré-pictural. Là, la catastrophe, elle est déjà pré-picturale. À la fois, ça nous arrange et ça nous embête. À ce moment-là, il faudra lui donner une définition pré-picturale. C'est comme la condition de peindre. Elle est avant l'acte de peindre. Un sens aigu des nuances de travail, je me sens coloré par toutes les nuances de l'infini. À ce moment-là, je ne fais plus qu'un avec mon tableau. Nous sommes, le tableau et moi, c'est vraiment, alors pour revenir à l'autre, c'est vraiment la composition du troisième corps, le tableau pas encore fait et le peintre, qui ne s'est pas encore mis à peindre, nous sommes un chaos irisé. Nous sommes un chaos irisé. Je viens devant mon motif. Vous voyez, il n'a rien peint encore. Je viens devant mon motif. Je m'y perds. Je songe, vague, je perds devant vos motifs. Un chaos. Le soleil me pénètre sourdement comme un ami lointain qui réchauffe ma paresse. Nous germinons. Tiens, s'il est du germe, elle sera reprise à la lettre avec le même mot partout. Nous germinons. Il me semble, lorsque la nuit redescend, que je ne peindrai et que je n'ai jamais peint. C'est pré-pictural. C'est le avant-peindre pour l'éternité. Il faut la nuit pour que je puisse détacher mes yeux de la terre, de ce coin de terre où je me suis fondu. Un beau matin, le lendemain, je suis toujours dans le premier moment, vous voyez, il y a eu ce moment prépictural du chaos. Il ne voit plus, il se confond avec son motif, il ne voit plus rien, la nuit tombe. Comme il dit, quand il explique dans une lettre, ma femme elle me gronde parce que quand je rentre, j'ai les yeux tout rouges. Hein. Il voit plus rien. L'œil, on aura à se demander, qu'est-ce que c'est que l'œil? Qu'est-ce que c'est qu'un œil? L'œil du peintre, c'est quoi un œil? Dans la peinture, ça fonctionne comment un œil? Bon, eh ben, c'est un œil tout rouge déjà. Un beau matin, le lendemain, lentement, les bases géologiques, c'est ça qu'il cherchait hein, confusément. Il avait commencé pour bien peindre un paysage, je dois découvrir d'abord les assises géologiques. Un beau matin, le lendemain, lentement, les bases géologiques m'apparaissent, des couches s'établissent, les grands plans de ma toile. J'en dessine mentalement le squelette terreux. Si vous voyez les paysages d'Aix des âmes, vous voyez ici ce qu'il appelle le squelette terreux. J'en dessine les grands plans de ma toile, dont j'en dessine mentalement. Vous voyez, il n'a toujours pas commencé. J'en dessine mentalement le squelette terreux. Je vois affleurer les roches sous l'eau. Peser le ciel, tout tombe d'aplomb, tout tombe d'aplomb. Une pâle palpitation enveloppe les aspects linéaires, l'été rouge sorte d'un abîme. L'abîme, c'est le chaos de tout à l'heure, hein, c'est le chaos de la veille. L'été rouge en sorte, mais rouge sous quelle forme hein? Ça doit être des terres rouges brunes, hein? Ça doit être du pourpre noir, qui tend au noir. Hein? Les terres rouges sortent d'un abîme. Je commence à me séparer du paysage à le voir. Vous voyez, c'est aussi une jeunesse de l'œil. Au moment du pur chaos, pas d'œil. Hein. Il est fondu, l'œil est tout rouge, là, il ne voit plus rien. Je commence à voir le paysage. Je m'en dégage avec cette première, je me dégage du paysage, c'est le rapport de vision. Je m'en dégage avec cette première esquisse. C'est l'île géologique, la géométrie mesure de la Terre. En d'autres termes, la géométrie est identique à la géologie. Bon, qu'est-ce que je dis pour résumer? Je dis ce premier moment prépictural. C'est le moment du chaos. Il faut passer par ce chaos. Et qu'est-ce qui sort de ce chaos selon ces âmes? L'armature. L'armature de la toile. Voilà que les grands plans se dessinent. Tout tombe d'aplomb. C'est déjà un danger, hein. Il y a une lettre où ces âmes disent ça va pas. Les plans tombent les uns sur les autres. C'est déploiement là, ça peut échouer. Un premier coefficient d'échec possible. La distinction des plans peut très bien ne pas arriver à se faire. La distinction des plans se fait à partir du chaos. Bon, si le chaos prend tout, si rien ne sort du chaos, si le chaos reste chaos, les plans tombent les uns sur les autres au lieu de tomber d'aplomb. Enfin, les plans tombent, le tableau il est déjà foutu. Il est déjà foutu avant d'avoir commencé. C'est ça la merveille. Et c'est vrai que dans l'expérience du peintre, quand il y avait écrit « ça marche pas, je suis bloqué, je suis pas bloqué. » Ouais, peut-être. Hein.
Et on arrive à partir du torrent, c'est-à-dire à la couleur. Et c'est-à-dire, en vérité,
À ce moment-là, vaudrait mieux peut-être en effet revenir, mais là, ça nous dépasse, je signale pour ceux qui que ce point intéressait. Il y a dans un livre de Kant, qui est, je crois, un des livres les plus importants de toute la philosophie, qui est la critique du jugement, que Kant a écrit très très vieux, et qui contient une des premières grandes esthétiques philosophiques. Il y a une théorie du sublime. Et Kant distingue deux aspects ou deux moments du sublime. Dans l'un, il le nomme le sublime géométrique ou mathématique, géométrique, et l'autre, le sublime dynamique. Et là, si on y se met, en effet, il faudrait essayer que ça intéresse, vous voyez, ces textes sont très difficiles, mais je les commencerai peut-être un jour. Si on a le temps. Ce serait très curieux, en effet, on pourrait peut-être faire coïncider, sans trop forcer les textes, les deux moments de Cézanne avec ces deux moments du sublime. Le premier qui est un sublime géométrique, d'après l'expression même, ou géologique, d'après l'expression même de Cézanne, et puis l'autre qui est beaucoup plus un sublime, on va voir, un sublime dynamique. Mais le texte de Kant est extraordinaire, ça. C'est les grands textes fondateurs du romantisme. Bon, on passe maintenant au second moment. Vous voyez, le premier moment, c'est chaos et quelque chose en sort, à savoir l'armature. Second moment, une tendre émotion me prend. Une tendre émotion me prend. Des racines de cette émotion montent la sève, les couleurs. Une sorte de délivrance. Le rayonnement de l'âme, le regard, le mystère extériorisé, l'échange entre la terre et le soleil, les couleurs, une logique aérienne. Avant, on était dans une logique terrestre, terrienne, avec les acquis géologiques. Une logique aérienne, colorée, remplace brusquement la sombre, la têtue géométrique. Vous voyez, on change d'élément, une logique aérienne colorée remplace brusquement la sombre, la têtue géométrique. Tout s'organise, les arbres, les champs, les maisons. Tiens, mais alors, mais alors tout était pas organisé, pourtant les plans étaient tombés d'aplomb, tout ça. Tout s'organise comme si il partait à zéro, c'est bizarre. Je vois. La seconde jeunesse de l'œil, je vois, ça cache. L'acquis géologique, alors c'est ça qui va nous donner le secret, c'est bizarre. Il ne le dit pas, il a l'air de reprendre à zéro. Alors que je vois, il l'a déjà dit, je commence à voir. Et là, il fait comme s'il voyait pour la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Une seule réponse, c'est que le premier moment qui était chaos ou abîme et quelque chose qui en sort, à savoir l'armature, et bien ce qui est sorti du premier moment, l'armature, s'est écroulé à nouveau. C'est écroulé à nouveau, en effet. Je vois, partage, l'acquis géologique, le travail préparatoire. Là, il le dit formellement. Tout premièrement était un travail préparatoire, préfigurant. La scie géologique, le travail préparatoire, le monde du dessin s'enfonce, s'est écroulé comme dans une catastrophe. Ce par quoi le texte me paraît très très intéressant, c'est que lui, en son nom propre, dans son expérience, il distingue dans ce qu'on peut appeler la catastrophe en général, il distingue deux moments, un moment du chaos abîme, et encore les assises ou l'armature, et puis un second moment, la catastrophe qui emporte les assises et l'armature, et va en sortir quoi?
l'assise géologique, le travail préparatoire, le monde du dessin s'enfonce, s'est écroulé dans, comme dans une catastrophe. Un cataclysme l'a emporté. Une nouvelle période vit, la vraie, celle où rien ne m'échappe, où tout est dense et fluide à la fois naturelle. Il n'y a plus que des couleurs, et en elles de la clarté, l'être qui les pense, cette montée de la terre vers le soleil, cette exhalaison des profondeurs vers l'amour. C'est curieux parce que comme le signale Malvinet, là, on pourrait faire non seulement le rapport avec les textes sur le sublime chez Kant, mais ce serait la forme à terme, on trouverait l'équivalent dans des textes d'ailleurs, dans des textes de Schelling, lequel Schelling est très proche de la peinture. Bizarre. Bon. Je veux m'emparer de cette idée, de ce jet d'émotion, de cette fumée d'être, la couleur qui monte, hein, de cette fumée d'être au-dessus de l'universel brasier. Là aussi, ce serait une idée de l'expression des toiles de Turner. Bon, c'est pas pour Turner qu'il le dit, c'est pour ses toiles à lui, c'est pour ce qu'il veut faire. L'universel brasier. Voyez donc, je recommence. Un premier temps décomposé en deux aspects. Le chaos abîme. Je ne vois rien. Deuxième aspect du premier temps. Quelque chose sort du chaos abîme. Les grands plans, l'armature, la géologie. Deuxième temps. La catastrophe emporte les assises et les grands plans. La catastrophe en France. C'est-à-dire, on repart à zéro. On repart à la reconquête, et pourtant, si le premier temps n'était pas là, sans doute ça marchait pas. Et un nouveau danger que la catastrophe prenne tout, et que la couleur monte pas. Tiens, faisons un progrès, qu'est-ce qui se passe quand la couleur monte pas? Quand la couleur prend pas dans le brasier, il faut que la couleur sorte de cette espèce de fourneau. De ce fourneau catastrophe. Hein. Si elle sort pas, si elle prend pas, si elle cuit pas ou si elle cuit mal. C'est curieux, c'est comme si le peintre. Bon, est-ce qu'il a affaire avec la céramique, le peintre? Oui, évidemment oui. Il emploie d'autres moyens, lui. Mais son fourneau, il l'a, il n'y a pas de couleur qui sort pas de ce d'un fourneau qui est quoi? Et bien, qui est en même temps sur la toile. C'est le globe de feu, c'est le globe de lumière de Turner. Chez Cézanne, ce sera quoi? Et comment appeler ça? Bon, on ne sait pas encore. La couleur est censée en sortir. Si elle ne sort pas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on dit d'un tableau où la couleur monte pas, sort pas? La couleur monte, faut le prendre quoi? C'est une métaphore? Non, c'est pas une métaphore. Évidemment, non pour Cézanne. Ça veut dire, la couleur, c'est affaire de gamme ascendante. Elle doit monter. Ah bon, elle doit monter. Est-ce que c'est vrai de tous les peintres? Évidemment, non. Non, il y a des peintres, au contraire, il y a des gammes descendantes. Sauf que chez Cézanne, on verra pourquoi. Des gammes ascendantes. Si bien que ce qui a l'air métaphore, ce n'est pas des métaphores. Elle monte vers le blanc? Non, pas, non.
Vers le bleu?
Ouais, mais chez Cézanne, ça monte pas vers le blanc. Ça monte. Ouais. Non, c'est des gammes ascendantes, c'est dans l'ordre, c'est dans... Enfin, on verra ça. On verra. Ouais. Et là, c'est Cézanne, hein. Alors, bon, qu'est-ce que c'est, oui, quand la couleur monte pas, quand elle prend pas, quand elle cuit pas, on dit au tout ça. Tout à l'heure, on a vu le danger du premier temps. C'était quoi? C'était, oh là là, les plans, ils tombent les uns sur les autres. Ils sont pas d'aplomb. Le raté de la géologie, ils sont pas d'aplomb. Et d'aplomb, ça veut dire quoi? Puisque c'est un aplomb qui n'existe que dans le tableau, c'est pas l'aplomb de la semblance.
faut que les... Sinon, si les plans tombent les uns sur les autres, le tableau est de désagréable. Bon, vous voyez, c'est beaucoup plus important que le problème de la profondeur. Le problème de la profondeur, il est complètement subordonné au problème des plans et de la chute des plans. Il faut que les plans tombent et qu'ils ne tombent pas les uns sur les autres. La profondeur, on s'arrange avec la profondeur. Là, toutes les créations sont permises quant à la profondeur. Mais justement, on a toujours la profondeur qu'on mérite en fonction de la manière dont on fait tomber les plans. C'est ça le problème du peintre. Jamais le problème, le peintre n'a eu le moindre problème de la profondeur. C'est pour dire, ça, un problème de profondeur. Bon. Le second, les couleurs, elles ne montent pas. Qu'est-ce que c'est le danger, là? Le danger, c'est... On le dit très bien, les peintres le disent très bien. Qu'est-ce que c'est? C'est des couleurs marées. C'est un marais. Un marécage. Un gâchis. Un gâchis, ça... J'ai fait un gâchis. C'est gris. C'est de la grisaille. Les couleurs qui ne montent pas, les plans qui ne tombent pas, c'est terrible. Qui tombent les uns sur les autres, c'est la confusion. Couleurs qui ne montent pas, c'est la grisaille. Là, c'est la grisaille. Ah bon? Est-ce que ça ne va pas nous aider un peu? C'est la grisaille. En effet, ça fait des tableaux finalement à la limite des tableaux sales. Gauguin, il était très vexé parce qu'un très bon critique du temps avait dit que tout ça, c'est des couleurs sourdes et teigneuses. Ça, il n'avait pas pardonné 20 ans après, il se rappelait ça, des couleurs sourdes et teigneuses. On avait dit ça de lui. C'est difficile la couleur, hein. C'est difficile de sortir du sourd, du teigneux, du grisaille. Ah bon, mais qu'est-ce que ce serait? Comment ça se fait ça? Pourquoi j'introduis cette idée? Ben, parce que il y a un texte célèbre que tous les peintres ont toujours répété, il y a un texte de Delacroix où il dit le gris c'est l'ennemi de la couleur, c'est l'ennemi de la peinture. On voit bien ce que ça veut dire. Hein. Le gris, à la limite, c'est quoi? C'est là où le blanc et le noir se mélangent, et à la limite où toutes les couleurs se mélangent. Toutes les couleurs se mélangent, couleurs montent pas. C'est de la grisaille. Quand le même Cézanne, pas longtemps après, ce texte que je viens de lire, dit ceci. Écoutez un peu, il dit à Gasquet, j'étais à Taloir. Des gris, en veux-tu, en voilà, et des verts, tous les verts de gris de la map-monde. Les collines environnantes sont assez hautes, il m'a semblé, elles paraissent basses, et il pleut. Il y a un lac entre deux boulets, un lac d'Anglaise. Les feuilles d'album tombent, tout aquarellées des arbres. Assurément, c'est toujours la nature, mais pas comme je la vois, comprenez-vous. Gris sur gris, gris sur gris. On n'est pas un peintre tant qu'on n'a pas peint un gris. L'ennemi de toute peinture est le gris, dit Delacroix. Non, on n'est pas un peintre tant qu'on n'a pas peint un gris. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est bien parce qu'il a tort de s'en prendre à Delacroix. Le texte de Delacroix, il est aussi important et aussi passionnant que celui de Cézanne, et en plus ils disent exactement la même chose. Il y a un gris qui est le gris de l'échec. Et puis il y a un autre gris. Il y a un autre gris, qu'est-ce que c'est? Bon. Il y a un gris qui est celui de la couleur qui monte. Il y aurait deux gris. Là, je sens, on peut, ça touche tellement des... Ou bien, il y aurait beaucoup de gris, énormément de gris. En tout cas, c'est pas le même gris. Le gris des couleurs qui se mélangent, ça, c'est le gris de l'échec. Et puis, un gris qui serait peut-être comme le gris, là, du brasier.
qui serait peut-être un gris essentiellement lumineux, un gris d'où les couleurs sortent. Il faut aller très prudemment, parce que c'est bien connu qu'il y a deux manières de faire du gris. Quand Dinitzky rappelle, il y a une belle page là-dessus, sur les deux gris. Un gris passif et un gris actif. Il y a le gris qui est mélange de noir et de blanc. Et en même temps, on ne va pas pouvoir s'en tenir à ça. Je précise tout de suite pour éviter les objections. Il y a un gris, mettons, qui est un mélange de noir et de blanc, et puis il y a un gris qui est un mélange, le grand gris, et c'est pas le même, qui est un mélange de vert et de rouge. Ou même, d'une manière plus étendue, qui est un mélange de deux couleurs complémentaires. Mais avant tout, un mélange de vert et de rouge. Or, Delacroix parlait de cet autre gris, le gris là, du vert rouge. C'est pas le même gris, évidemment. Alors ce serait facile pour nous de dire, ah ben oui, il y a un gris des couleurs qui se mélangent, c'est le gris blanc-noir. Et puis il y a un gris qui est comme la matrice des couleurs, le gris vert-rouge. Kandinsky appelle le gris vert-rouge un véritable gris dynamique dans sa théorie des couleurs. Un gris qui monte à la couleur. Bon. Mais pourquoi c'est pas suffisant de dire ça? Parce que si on prend par exemple la peinture chinoise ou japonaise, c'est bien connu qu'elle obtient déjà toutes les nuances qu'on veut. Mais une série infinie de nuances de gris à partir du blanc et du noir. Donc on ne peut pas dire que le mélange de blanc-noir, il n'est pas matrice aussi. Simplement, je pose la question du gris. Pourquoi je pose la question? Sans doute pour passer de ces âmes appelées. L'histoire du gris, on va voir qu'elle est complètement reprise. Je résume tout pour ces âmes. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous a donné quand même un renseignement inappréciable pour nous. La catastrophe fait tellement partie de l'acte de peindre qu'elle est déjà là avant que le peintre puisse commencer sa tâche. Il nous a donné une précision. C'est une précision dont on n'est pas sorti. Vous voyez, pourquoi ça m'intéresse? Parce que, qu'est-ce qu'on est en train de tenir, de commencer à tenir? On est en train, et ça m'intéresse. Enfin, pour mon compte, ça m'intéresse. Suffit pas de mettre la peinture en rapport avec l'espace, parce que c'est évident. Je crois même que pour comprendre son rapport avec l'espace, il faut passer par le détour. Quel détour? Le détour, la mettre en rapport avec le temps. Un temps propre à la peinture. Traiter un tableau comme si un tableau opérait déjà une synthèse du temps. Dire un tableau implique une synthèse du temps. Dire faites attention. Le tableau ne concerne l'espace que par ce tableau. Il incarne une synthèse du temps. Il y a une synthèse du temps proprement picturale et l'acte de peintre se définit par cette synthèse du temps. Donc ce serait une synthèse du temps qui ne convient que à la peinture. Si je me dis comment prouver et comment arriver à définir, si cette hypothèse était juste, comment arriver à définir la synthèse du temps que je pourrais appeler proprement picturale? On commence à apercevoir. Supposons que l'acte de peintre renvoie nécessairement à une condition pré-picturale. Et d'autre part, que quelque chose doit sortir de ce que cet acte affronte. L'acte de peintre doit affronter sa condition pré-picturale de telle manière que quelque chose en sorte. Là, j'ai bien une synthèse du temps. Sous quelle forme ? Une temporalité propre à la peinture sous la forme d'un pré-pictural avant que le peintre commence, d'un acte de peindre et d'un quelque chose qui sort de cet acte. Bon. Et tout ça serait dans le tableau. Ce serait le temps propre du tableau.
au point que de tout tableau, je serai en droit de dire quelle est la condition prépicturale de ce tableau, c'est pas du tout des catégories générales. Où est, montrez-moi l'acte de peintre dans ce tableau. Et qu'est-ce qui sort de ce tableau? J'aurai donc ma peinture existante proprement picturale. Si je récapitule de ce point de vue le texte de Cézanne, premièrement, condition prépicturale, le chaos ou l'abîme, d'où sort les grands plans projetés. Voilà. Premier. Deuxième temps, l'acte de peindre comme catastrophe. Il faut que les grands plans soient emportés par la catastrophe. Et qu'est-ce qui en sort ? La couleur. Bon. Je passe, il ne faut surtout pas que vous vous reposiez ni que vous réfléchissiez. Surtout pas. Je passe à Paul Klee. Paul Klee a toujours eu une affaire très bizarre dans beaucoup de ses textes, ça revient. Le thème du point gris, qu'il appelle le point gris. Et on sent qu'il a un rapport avec le point gris, c'est son affaire à lui. Et c'est comme ça qu'il peut expliquer ce que c'est pour lui que peindre. Et c'est pas un tel texte. Il y a, par exemple, dans ce qui a été traduit sous le titre Théorie de l'art moderne, dans les éditions Médiation, il y a un texte de Klee qui s'appelle Note sur le point gris. Mais page 56. Mais jusqu'au bout, hein, il lâchera pas son idée du point gris et les aventures du point gris. Il en parle partout. Enfin, il en parle souvent. Et voilà ce qu'il nous dit. Je lis très vite, là. Le chaos comme antithèse de l'ordre n'est pas proprement le chaos. Ce n'est pas le chaos véritable. C'est une notion localisée, relative à la notion d'ordre cosmique. Le chaos véritable ne saurait se mettre sur le plateau d'une balance, mais demeure à jamais impondérable et incommensurable. Il correspondrait plutôt au centre de la balance. En fait, il ne correspond pas. Plutôt, hein. Vous allez voir pourquoi il ne correspond pas. C'est ce qu'il nous dit là. Il est très philosophe. Il dit, si vous parlez du chaos, vous savez tout. Vous ne pouvez pas vous le donner comme ça, parce que si vous vous le donnez, vous ne pouvez pas en sortir. Il dit, moi je suis prêt à me le donner. Je suis prêt à me le donner parce que je suis peintre. Bon, mais vous ne pouvez pas, du point de vue de la logique, vous donner le chaos comme si c'était l'antithèse de quelque chose. Parce que le chaos, il prend tout, il risque de tout prendre. Vous ne pouvez pas dire le chaos, c'est le contraire de l'ordre. Le chaos, il n'est relatif à rien. Il n'est l'opposé de rien, il n'est relatif à rien, il prend tout. Et il met donc en question déjà dès le début toute pensée logique du chaos. Le chaos n'a pas de contraire. Non, il n'a pas de contraire. Si vous posez le chaos, comment vous pouvez en sortir? Klee va essayer de dire comment il en sort pour son compte. D'un chaos qui n'a pas de contraire, d'un chaos qui n'est pas relatif. Il dit le chaos, c'est donc un non-concept. C'est intéressant, ça, pour ma question, est-ce que les peintres peuvent nous apporter des concepts? Ben oui, comment faire nous dire le chaos, vous savez, si vous prenez au sérieux l'idée du chaos, c'est un non-concept. Le symbole de ce non-concept est le point. Ah bon, je dis ça. Il faut découvrir le texte avec contentement, avec émerveillement. Bon, il ne s'agit pas de discuter, ni même de lui demander pourquoi, il faut essayer de se laisser aller, quoi, le texte, hein. Le symbole de ce non-concept, c'est le point, non pas un point réel, mais un point mathématique.
c'est-à-dire un point qui n'a pas de dimension, c'est ça qu'il veut dire. Cet être néant ou ce néant être, il est très philosophe, Clé, hein. Cet être néant ou ce néant être est le concept non conceptuel de la non contradiction. Eh bien, c'est très gai, ça. Hein, il dit du chaos, cet être néant ou ce néant est, c'est le concept non conceptuel de la non contradiction, puisqu'il ne s'oppose à rien. Puisqu'il n'est pas relatif, c'est l'absolu. Le chaos, c'est l'absolu, tout simple. Pour l'amener au visible, c'est-à-dire pour en avoir une approximation visible, prenant comme une décision à son sujet, il faut faire appel au concept de grippe, au point grippe, point fatidique entre ce qui devient et ce qui meurt. Vous voyez, c'est le point grippe qui est chargé d'être comme le signe pictural du chaos absolu. Ce point est gris parce qu'il n'est ni blanc ni noir, ou parce qu'il est blanc tout autant que noir. Vous voyez, ce gris dont il s'agit, c'est le gris du noir blanc. Il le dit explicitement. Il est gris parce qu'il n'est ni en haut ni en bas, ou parce qu'il est en haut tout autant qu'en bas. Gris parce qu'il n'est ni chaud ni froid. En termes de couleurs, vous savez, les couleurs chaudes avec mouvement d'expansion, les couleurs froides avec mouvement de contraction. Gris parce qu'il n'est ni chaud ni froid. Gris parce que point non dimensionnel. C'est un beau texte, on ne sait pas où il va, mais il y va avec une espèce de rigueur. Là. Gris parce que point non dimensionnel, point entre les dimensions et à leur intersection au croisement des chemins. Voilà. Voilà le point gris chaos. Il continue. Et là, je vais devoir mêler des textes. Il continue le texte que je cite même. Établir un point dans le chaos, c'est le reconnaître nécessairement gris en raison de sa concentration principielle et lui conférer le caractère d'un centre originel d'où l'ordre de l'univers va jaillir et rayonner dans toutes les dimensions. Affecter un point d'une vertu centrale, c'est en faire le lieu de la cosmogénèse. À cet avènement correspond l'idée de tout commencement, ou mieux, le concept d'œuf. C'est bien. Il nous a apporté deux concepts, hein, le concept non conceptuel du gris et le concept d'œuf. Bon, si vous avez écouté le second paragraphe, je le relis très vite. Établir un point dans le chaos, c'est le reconnaître nécessairement en gris, en raison de sa concentration principielle, et lui conférer le caractère d'un centre originel, d'où l'ordre de l'univers va jaillir et rayonner dans toutes les dimensions. On en est là, à ce second niveau, on est à la genèse des dimensions. Le premier point gris, il est non dimensionnel. Le second paragraphe nous parle de toute évidence d'un second point gris. Quel est ce second point gris? Cette fois-ci, contrairement au premier, ou bien c'est le premier, mais le premier comment? Fixé. C'est le premier centré. Si vous comprenez quelque chose, vous y voyez l'écho, vous faites vous c'est pas. Les blancs tombent. Ah, j'ai fixé le point gris non dimensionnel. Je l'ai fixé. J'en fais le centre. En lui-même, il n'était pas du tout centre. Pas du tout. Là, je le fixe, j'en fais un centre. De telle manière qu'il devienne matrice des dimensions. Le premier point était unidimensionnel. Le second, c'est le même que le premier, mais fixé, centré. Dans un autre texte, c'est pour ça que j'ai besoin des autres textes, il a une formule encore plus étrange, très très curieuse. le point gris établi, c'est-à-dire, comprenez bien, le point gris une fois fixé, une fois pris comme sens. C'est une cosmogénèse de la peinture, là, qui laisse la situation. Le point gris établi saute par-dessus lui-même. Vous voyez, c'est le même et c'est pas le même. Le point gris établi saute par-dessus lui-même dans le champ où il crée l'ordre. Le premier point, c'est-à-dire le point gris chaos, non dimensionnel. Le second, c'est le même. Mais le même sous une toute autre forme, un tout autre niveau, un tout autre moment. Il y a deux moments du point gris. Cette fois-ci, c'est le point gris devenu centre, dès lors matrice des dimensions, dans la mesure où il est établi, c'est-à-dire entre les deux, il a sauté par-dessus lui-même. Et comme Clé adorait faire des petits dessins de sa cosmogénèse, très bien, le point gris saute par-dessus lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ajoute, pris encore un autre texte, mais l'obsède tellement l'histoire du point gris, ce texte, cet extrait de Clé, là qui me paraît alors pour nous très très riche. Si le point gris se dilate, il s'agit du second point gris, pris comme sens, devenu matrice des dimensions, si le point gris se dilate et occupe la totalité du visible, alors le chaos change de sens et l'œuf se fait mort. C'est la version Paul Clay de la question qu'on posait tout à l'heure. Et si le chaos prend tout? Alors, et si le chaos prend tout? Bon, il faut passer par le chaos, mais il faut que quelque chose en sorte. Si rien n'en sort, si le chaos prend tout, si le point gris ne saute pas par-dessus lui-même, alors l'œuf est mort. Qu'est-ce que c'est l'œuf? C'est évidemment le tableau. C'est le tableau qui est un œuf. La matrice des dimensions, alors c'est quoi le texte de Clé? Je dirais pour faire le parallèle avec le texte de Cézanne. Premier moment, le point gris chaos. C'est l'absolu. Évidemment, c'est avant de peindre. Pas question de le peindre, ce point gris chaos. Et pourtant, il affecte fondamentalement. La peinture, l'acte de peindre, il commence quand? Il est à cheval. L'acte de peindre, il a, si j'ose dire, un pied ou une main dans la condition prépicturale, et l'autre main en lui-même. En quel sens? L'acte de peindre, c'est l'acte qui prend le point gris pour le fixer, pour en faire le centre des dimensions. C'est-à-dire, c'est l'acte qui fait sauter par-dessus lui-même le point gris. Le point gris saute par-dessus lui-même et à ce moment-là engendre l'ordre, ou l'œuf. S'il ne saute pas par-dessus lui-même, c'est foutu, l'œuf est mort. Donc les deux moments, point gris chaos, point gris matrice, entre les deux, le point gris a sauté par-dessus lui-même, et c'est ça l'acte de peindre. Il fallait passer par le chaos. Parce que c'est dans le chaos qu'est la condition prépicturale. Alors, est-ce qu'on peut raccrocher, puisque la Clé le fait et explicitement, encore plus directement que Cézanne, avec le problème de la couleur et du gris? Bon, est-ce que c'est le même gris? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il suffit de dire, il y aurait même toutes sortes de questions, est-ce qu'on peut dire? Oui, peut-être approximativement on peut dire, oui, le premier gris. Le point gris chaos, c'est le gris du noir blanc. le point gris qui a sauté par-dessus lui-même, c'est pas le même. C'est le même et c'est pas le même. C'est encore le point gris, mais cette fois-ci, quand il a sauté par-dessus lui-même, est-ce que ce serait pas cet autre gris, le gris du vert rouge? Le gris qui organise les dimensions et dès lors, du même coup qui organise les couleurs, qui est la matrice des dimensions et des couleurs. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, on peut le dire. Oui, sûrement. Est-ce que c'est suffisant de le dire? Non. Parce qu'il serait stupide de dire que le gris du noir-blanc, c'est pas aussi déjà tout l'œuvre, tout le rythme de la peinture, tout. Donc, c'est manière de dire tout ça. Bon. Comment s'en tirer? On progresse vraiment lentement, c'est-à-dire qu'on commence à apercevoir cette synthèse du pain qui est présente. À mon avis, c'est comme ça qu'on peut, si vous voulez, c'est vraiment une question d'assimilation. Dans un tableau, ben oui, ben pour Turner, ça marche tout évident. Pour Cézanne, ça marche. Pour Clé, bon, sûrement aussi. Et vous voyez pourquoi, dès lors, ils peuvent se relier tellement à l'idée d'un commencement du monde. C'est leur affaire, le commencement du monde, c'est leur affaire. C'est leur affaire directe. Je veux suggérer que si fort, par exemple, la musique, elle a un rapport avec le commencement du monde, oui, oui, certainement. De la même manière, je ne sais pas, je ne sais pas bien. Ça, il faudra penser pour le... On ne peut pas tout, en tout cas, mais non. Bon. Voilà. Alors, vous comprenez. Bon, on se sent bloqué. Donc, chaque fois qu'on se sent bloqué, je vais poser un autre point, mais peut-être que parmi vous, il y en a... Qu'est-ce que je cherche? Je cherche quelque chose qui me fasse encore un peu avancer. Et j'invoque alors un peintre qui va venir... Ça ne s'impose pas, ces rapprochements. Ce n'est pas des rapprochements de peintre que je fais. Je vais chercher la peintre actuelle, ce peintre contemporain, Bacon. Parce que j'ai été très frappé, j'en reste dans les textes. La prochaine fois, peut-être que je montrerai par exception un petit tableau pour que vous voyez ce qu'il veut dire, peut-être, mais pas la peine. C'est un texte très très curieux. Il a fait des entretiens, Bacon, qui ont été publiés aux éditions Spira. Et il y a un passage qui me paraît tout à fait bizarre, parce qu'en plus, il a la chance d'être anglais, enfin anglais-irlandais, et il lâche un mot que les anglais aiment bien. Et ce mot, alors, peut-être qu'on va y trouver un salut, là, dans notre... voilà le texte. Pourquoi il vient en ce moment, le texte, pour moi, il vient en ce moment parce que Bacon dit que avant de peindre, il y a bien des choses qui ne se font pas. Avant même de commencer à peindre, il y a bien des choses qui se sont passées. Quoi? Bon, laissons de côté. Et que, précisément, c'est pour ça que peindre, ça implique une espèce de catastrophe. Une espèce de catastrophe, pourquoi? Ça implique une espèce de catastrophe sur la toile pour se défaire de tout ce qui précède, de tout ce qui pèse sur le tableau avant même que le tableau ne soit commencé. Comme si le peintre avait à se débarrasser, alors comment appeler ces choses dont il doit se débarrasser? Qu'est-ce que c'est que ces fantômes dont le peintre? Qu'est-ce que c'est que cette lutte avec des fantômes avant de peindre? Les peintres, ils ont souvent donné un mot presque technique dans leur vocabulaire à eux, les clichés. On dirait que les clichés, ils sont déjà sur la toile, alors, avant même qu'ils aient commencé. Que le pire est déjà là. Que toutes les abominations de ce qui est mauvais dans la peinture est déjà là. Les clichés, Cézanne y connaissait ça. La lutte contre le cliché avant même de peindre. Comme si les clichés étaient là comme des bêtes qui se précipitaient, elles étaient déjà sur la toile avant que le peintre ait pris son pinceau. Et il va falloir. Là, on comprend un petit peu mieux, peut-être, si c'est ça. On va comprendre pourquoi la peinture est nécessairement un déluge. Il va falloir voyer tout ça, il va falloir empêcher tout ça, il va falloir tuer tout ça. Empêcher tous ces dangers qui pèsent déjà sur la toile, en vertu de son caractère pré-pictural ou de sa condition pré-picturale. Il faut défaire ça, et même si on ne le voit pas, ils sont là. Espèces d'ectoplasmes, ils sont déjà. Alors ils sont où? Ben dans la tête, dans le cœur, ils sont partout, dans la pièce. Dans la pièce, ils sont là. C'est pas tant, c'est des fantômes, quoi. Ils sont là, on ne les voit pas, mais ils sont déjà là. Si vous passez par votre toile dans une catastrophe de fournaise, ou de tempête, etc., vous produirez des clichés. On dira, oh, il a un joli coup de pinceau, ça. Oh, c'est bien ça. Un décorateur, quoi. Un décorateur, oui, c'est bien, c'est joli, c'est bien fait, ah oui, c'est bien. Ou bien un dessin de mode, un dessinateur de mode, il faut bien dessiner, c'est de la merde en même temps. Il n'a aucun intérêt, rien, zéro, quoi. Zéro, bon. Il ne faut pas croire qu'un peintre, un grand peintre, il est moins de danger qu'un autre. Simplement, lui, dans son affaire, il sait tout ça. C'est-à-dire, un dessin parfait, ils savent tous en faire. Hein. Ils n'ont pas l'air, mais ils savent très bien. Ils ont même parfois appris ça dans les académies, où il y a eu un temps où ils apprenaient très bien ça. Et même on ne conçoit pas un grand peintre, ils ne savent pas très bien faire, là. C'est une espèce de reproduction. Tous se sont passés, tous. Bon, mais ils savent que c'est ça qu'il faut faire passer par la catastrophe. Vous voyez, si la catastrophe, on commence à préciser un peu, et pourtant c'est très insuffisant ce que je dis. Je ne dis pas du tout qu'on en restera là. Mais je dis, si l'acte de peindre est essentiellement concerné par une catastrophe, c'est d'abord parce qu'il est en rapport nécessaire avec une condition pré-picturale, et d'autre part parce que dans ce rapport avec une condition pré-picturale, il doit rendre impossible tout ce qui est déjà menace sur la toile, dans la pièce, dans la tête, dans le cœur. Donc il faut que Rennes se jette dans cette espèce de tempête qui va quoi? Qui va précisément annuler, faire fuir les clichés. La lutte contre le cliché. Bon, supposons. Alors, Cézanne, en effet, la lutte contre le cliché chez Cézanne, c'est presque une heure. Mais c'est un truc où on est, si quelqu'un met toute sa vie dans la peinture, la lutte contre le cliché, c'est pas un exercice d'école, hein. C'est quelque chose où il risque de... c'est terrible. On est coincé à première vue, du moins le peintre est coincé. S'il passe pas par la catastrophe, il restera condamné au cliché. Et même si vous lui dites, oh, c'est quand même très beau, c'est pas des clichés. Ça pourra être pas des clichés pour les autres, pour lui, ça en sera un. Il y a des Cézanne qui sont pas des clichés pour nous, pour lui, c'en est fait. Bon, ça, il faudra parler de tout ça, c'est tellement compliqué. C'est pour ça que les peintres sont tellement sévères, les grands peintres, sur leur propre œuvre. C'est pour ça qu'ils jettent tellement de trucs. Alors ça c'est un premier danger, on ne passe pas par la catastrophe. On évite la catastrophe. Et puis il y a de grands peintres qui ont évité la catastrophe, ou bien on l'a réduit au minimum, tellement au minimum qu'elle se voit même plus. Peut-être qu'il y a de grands peintres qui ont été assez, je sais pas, un peu putain, alors ils ont l'air de passer quand même, mais rien du tout, je crois. Et puis il y a l'autre danger, là. On passe par la catastrophe et on y reste. Et le tableau y reste. Bien, ça arrive tout le temps, ça. Comme dit Clay, le point gris s'est dilaté au lieu de sauter par-dessus lui-même. Voilà le texte de Bacon. Ouh là là, oh ben j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Eh bien voilà, alors vous voyez, on en est là, un texte de Bacon dit, voilà. Bon, non, je veux bien le lire, là, mais non, ça, c'est idiot, vous voulez?
Oui.
Oui, parce que ça vous fera, j'aimerais que vous y réfléchissiez pour la prochaine fois. Je fais des marques. Son tableau, là, c'est à peu près au moment où il a, c'est le moment de Cézanne, où il a les grands plans. Hein. Je fais des marques, c'est ce qu'il appelle des marques au hasard. Vous voyez, c'est vraiment une espèce de, ou ce qu'il appelle vraiment du nettoyage. Il prend une brosse ou un chiffon et il nettoie une partie du tableau. Une partie. Retenez toujours que ça ne prenne pas tout, que la catastrophe ne prenne pas tout. Il établit lui-même sa catastrophe. Les marques au hasard sont faites. Et on considère la chose, c'est-à-dire le tableau nettoyé sur une partie, et on considère la chose comme on ferait d'une sorte de diagramme. Merveille, ça va nous relancer. Retenez le mot, un diagramme, il appelle ça. Et l'on voit à l'intérieur de ce diagramme les possibilités de faits de toutes sortes s'implanter. Il dit pas, on ne voit pas des faits,